Bonsoir les amis, on est en direct de Tignes, on est en direct de la montagne avec Joe, c'est incroyable, on est en direct des étoiles du sport. Quelqu'un dans le chat me disait à l'instant, mais elle est où la montagne, elle est où la neige? Il fait nuit les gars, il fait nuit, qu'est-ce que je pourrais... Je pourrais tourner la caméra, hein, je pourrais vous montrer, mais en fait, la neige, la nuit, vous la voyez pas en fait. Voilà. Donc comme on n'a pas embarqué 1000 projecteurs dans le train qui nous a amené depuis Paris ce matin quand même, hein, on aurait dû vous montrer les valises. On a 2 valises de quoi au total, on a... Ouais, oh, plus. Je pense qu'on a 40-50 kilos de matériel. Voilà. Donc vous ne verrez pas la neige. Mais en revanche, on va vous montrer plein de belles choses. Surtout, on va parler avec plein de belles personnes puisque c'est un stream ce soir un peu exceptionnel en direct de Tignes. Donc, Tignes en Savoie, des étoiles du sport. Je vais vous expliquer ce que c'est les étoiles du sport. C'est une belle chose, une belle organisation. Et des belles personnes, des champions, des athlètes, des grands champions. Je lâche quelques noms comme ça très rapidement. Il y aura Marie-Josée Pérec, il y aura Alain Bernard, le grand nageur. Je vais vous dire tous les gens que je vais recevoir. On a 8 invités qui vont succéder là. On est ensemble jusqu'à 22h au moins, et puis plus 6 affinités. Voilà. Je vous lis un petit peu parce que là, c'est un espèce de pré-stream. Le live débute vraiment à 20h, mais je me suis dit, on est installé avec Joe. On y va, let's go. Ça nous permet de tester l'acho, ça nous permet de tester le son, ça nous permet de tester... Regardez. Hey, tout est venu de Paris en train. Émission de CO2 oblige. Remontre le petit plan large, Joe. Hein. Tout ça, là, les caméras, les micros, le PC, la table de mixage, les écrans, la connectique. Tout ça, on l'a emmené avec Joe en train ce matin. On a 2 énormes valises, la gigantesque. On a vraiment beaucoup de matos. Et notamment un petit plan large, assez sympa. On a trois plans. Donc, on a un petit plan serré que vous venez de voir. Un plan un peu plus large, effectivement, c'est celui-là où vous allez pouvoir avoir nos invités. Donc, la première table ronde, j'aurai 3 invités. Puis après, ce sera des vagues de 2 invités, jusqu'à 8 au total. Et puis, le petit plan serré, quand je vous parle. C'est beau comme cadre de tournage, c'est vrai que c'est pas mal. Alors j'y suis pour rien, c'est pas moi qui ai fait le décor, c'est vrai que c'est joli. Pour la petite histoire d'ailleurs, c'est pas une OP, je veux dire, avec le Club Med, on est au Club Med de Tignes ici, parce que c'est eux qui accueillent les étoiles du sport, et c'est ici qu'on loge aussi. Donc je crois que c'est un Club Med qui est pas très vieux, qui a 1 an, hein, qui est tout neuf, et pour le coup là on est dans la bibliothèque qu'on a un peu squatté, mais bien squatté même. Et c'est là qu'on est. L'angoisse si tu oublies un câble. Ouais, alors il y a Kitchundales qui dit l'angoisse si tu oublies un câble. Et encore, là, on ne se vante pas trop, mais attendez. La vraie histoire, c'est que vendredi soir, on est au studio, on est à la maison avec Joe. On fait Simplay avec la Mixari. Hein, et je me déchaîne sur Hitman. J'avais un peu de mal, comme d'habitude, les premières parties. Et donc, on stream de 20h à 23h. Le fast, il est là. Certains d'ailleurs étaient avec Zari tout à l'heure en live et sont venus nous rejoindre, je l'ai vu dans le chat. Donc on a streamé de 20h à 23h. Après, le fast, le Xavier, on le met pas dehors, on discute un petit peu. Voilà, on a passé un bon stream avec lui. Il part vers 23h30. Voilà, et après, commencent les choses sérieuses. C'est-à-dire qu'on prend les 2 grosses valises et on y va. Le PC, la connectique, les écrans, les micros, la table de mixage, etc. Et avec ce stress, il ne faut rien oublier. Parce que si te manque un câble, un câble de caméra, un câble pour la table de mixage, bah c'est foutu. Voilà. Et on a tout, la preuve, ça marche. Voilà. Et on a... Ouais, Joe ? Oh, ah oui, ça c'est la photo de la table que vous connaissez, c'est la table de l'hebdo Etienne, avec une partie du matos et cette petite mascotte que Joe emmène dans ses streams les plus compliqués pour s'assurer que tout va bien. En général, quand elle est là, tout va bien. S'il y a un problème de connexion, si ça cut ce soir, on n'est pas à la maison, on a des secours, on a des petits boîtiers, ça devrait le faire. Vous, ça va comment, vous? Je profite du fait que les invités ne soient pas encore là. Ils sont là, ils vont nous rejoindre dans 15 minutes pour prendre un petit peu de vos nouvelles. Je remercie aussi les subs, The Voyageurs, merci pour les bits, le Taulier, merci pour le 9e mois d'abonnement, pardon. Woody632, merci pour le 5e mois d'abonnement et le gentil message, c'est sympa. Ray Latoube, comment vas-tu? 26 mois d'abonnement, c'est énorme. Snowy White, ça fait beaucoup de blanc ça. Merci pour le 9e mois d'abonnement. Maxon FR, merci pour le 20e mois. Seiya Ryuki, merci pour le 7e mois. Mumu Red, merci pour le 7e mois d'abonnement. Joe, merci pour le Red tout à l'heure. Manalta, merci pour le Prime. Stylix, merci pour cet abonnement. Coco, 21,999, merci pour le soutien. Je vois que Sabéran a bien aimé le live avec Xari, moi aussi. C'était la première fois que je faisais un truc avec, avec Xari et c'était vraiment très sympa. J'espère qu'on fera des trucs. Oui, sponsor Lacoste, non. Alors, ce stream n'est pas sponsorisé par Lacoste. C'est une opération avec les étoiles du sport. Je vais vous définir les étoiles du sport dans un instant. Mais il se trouve que Lacoste est le sponsor des étoiles du sport. Et donc, du coup, on m'a demandé si je voulais bien que le sponsor des étoiles du sport soit présent. J'ai dit fine, ok. Voilà. Vous posez des questions, moi je donne les réponses. Hein. Ici, c'est totale transparence. J'allais poser la question du son. Est-ce que le son est ok? Parce que ce petit before, il sert à ça aussi. Gros danseur me donne la réponse. Le son micro rend bien. Bon, tout va bien. Top. Alors si je remonte mon micro, après il va être comme il va être au niveau de mon front. Je suis pas très très grand. Allez, voilà. Normalement le micro doit être comme ça. Ça va. Donc du coup, c'est un petit peu quoi. Ah, bon, je vous lis un petit peu parce que ça me met bonne humeur. C'est quoi? Ah. Bon, Nita65 pose la question, je suis très content que tu la poses. C'est quoi exactement les étoiles du sport? Avant de vous dire ce que sont les étoiles du sport, c'est une jolie organisation qui existe depuis 2002, donc à plus de 20 ans maintenant. Et c'est vraiment un joli projet. Je vais vous dire ce qu'on va faire ce soir. On va recevoir 8 athlètes, 8 personnalités, parce qu'il y a aussi avec nous un réalisateur, un cinéaste ce soir, et il y a un pilote d'avion de chasse, et vous comprendrez pourquoi. On va essayer de répondre à cette question à 8 mois des Jeux Olympiques de 2024. Et moi, il se trouve que dans les prochains mois, sur ma chaîne et sur France Télévisions, je vais pas mal m'intéresser aux Jeux Olympiques 2024. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Je veux pas spoiler. Comment les athlètes peuvent-ils optimiser leur préparation à 8 mois des JO? Vous pensez bien que pour tous les athlètes français sélectionnés pour les Jeux, ils sont aujourd'hui plus de 500, puisque comme c'est nous qui recevons, on a plus d'athlètes que d'habitude. En général, c'est un peu plus de 300 et là, c'est un peu plus de 500. Vous imaginez bien que ces quelques mois avant sont des mois extrêmement importants, quoi. Comment on profite de ces derniers mois pour maximiser la performance? Quels conseils ils vont prendre auprès de qui? Diététiciens, entraîneurs, médecins, autres champions? Voilà, c'est la question qu'on va se poser ce soir et on va recevoir plein de grands champions et d'anciens grands champions à qui j'ai posé cette question. Qu'est-ce qu'on fait à quelques semaines, quelques mois d'une grande compétition sportive? C'est vachement intéressant. Évidemment, on va plutôt se focaliser sur les sportifs français parce qu'on est un peu chauvin, parce qu'on aimerait bien qu'il y ait beaucoup de médailles. Ça, c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir avec les invités. Et puis un mot des étoiles du sport, et évidemment, je répondrai à vos questions là-dessus. Les étoiles du sport, c'est une organisation, hein. C'est un mouvement lancé il y a un peu plus de 20 ans maintenant, dont le mot d'ordre est très joli, c'est les champions d'aujourd'hui parrainent les champions de demain. Donc vous avez de grands champions sportifs qui vont s'engager, qui vont se mobiliser pour accompagner des jeunes sportifs, des juniors, des futurs champions vers l'excellence. C'est un partage d'expérience, c'est vraiment sympa comme idée. Donc le programme a été créé en 2002, il se déroule toute l'année, hein. C'est pas juste un one shot, un week-end, même s'il y a des temps forts comme ce week-end en direct de Tignes, ça se déroule toute l'année et effectivement chaque année il y a un grand rassemblement entre les fameux champions qui parrainent et les espoirs, les champions de demain, et qui sont tous réunis ici. Tout à l'heure à déjeuner, j'avais les oreilles qui traînaient et on m'expliquait qu'il y avait plus de 60 athlètes français sélectionnés pour les Jeux Olympiques qui étaient ici avec nous à Tignes. Voilà. Et puis, eux, ils sont là. Nous, on est là pour deux jours en mode express. On ne va pas skier, hein, et on ne va pas profiter de la neige, hélas. Mais eux, ils sont là pour une semaine. Et puis, il y a du travail, des échanges, des tables rondes, des ateliers. Et puis, il y a aussi des moments de sport, des moments festifs. Je crois qu'il n'y a pas trop de ski parce qu'on évite de se blesser, bien sûr. Et parmi les anciens espoirs, passés par les espoirs du sport, ils sont devenus champions. Quelques noms, Martin Fourcade, le grand biathlète, Mathilde Gros, hein, qui est une grande championne française de cyclisme sur piste, si je ne dis pas de bêtises, ou encore le grand décathlonien Kevin Mayer. Voilà, vous avez le cadre de ce soir. Vous savez ce que c'est les étoiles du sport, vous êtes incollables et vous savez ce qu'on va faire ce soir. On va se pencher sur les prochains jeux. Je réponds à vos questions. Les invités me rejoignent dans 10 minutes. Joe. Ouais, c'est ça, dans 5-6 minutes. 5, 6, ouais, 10 minutes. Enfin, deux qui sont là, quoi. On est pas à la télé, on est cool, hein. On est sur Twitch. Voilà. Attendez, je vous ai pas dit qui on soit ce soir. Alors, dans un instant, normalement, trois pour commencer. Marie-Josée Pérec. Alors moi, à chaque fois, je suis très ému. J'ai eu la chance de l'interviewer une fois. D'ailleurs, c'était en live sur Twitch, sur ma chaîne avec Joe, il y a quelques mois, en direct de la Maison de la Radio. J'étais comme ça parce que je suis très admiratif, comme beaucoup de Français le sont, et de Françaises, de l'incroyable histoire de Marie-Josée Pérec et de son palmarès. Sarah Ouramoun, immense championne de boxe. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas de Française qui ait son palmarès en boxe. Alain Bernard, l'immense champion de natation, qui fait à peu près trois fois ma taille et quatre fois ma largeur. Il sera avec nous aussi. Première table ronde. Deuxième table ronde, Michael Jeremias, que vous avez peut-être vu avec moi en stream, avec, quand on était en direct du Trocadéro avec Joe autour du skate, voilà, notamment sur la question de l'accessibilité des sports, notamment du skate, aux personnes en situation de handicap. Eh bien, il y avait Michael Jeremias, qui est un grand champion de tennis fauteuil, et je le retrouve ce soir. Julien Beneteau, grand champion de tennis, bien sûr, avec nous. Troisième table ronde, Florent Dasque. Alors Florent Dasque, là on sort un petit peu du sport, puisque Florent Dasque, c'est un chanteur, c'est un auteur, compositeur, interprète, vous le connaissez peut-être, c'est un des fondateurs du célèbre groupe Boulevard Désert. Alors, disque d'or, de platine, et pourquoi il est là? Parce que c'est un habitué des étoiles du sport, c'est un grand amateur de sport, et il aime venir ici, il aime partager ses moments. D'ailleurs c'est un gamer aussi, parce que je crois qu'il a gagné les Roland-Garros e-Series. Ouais, c'est un gamer. Donc, on est très heureux de le recevoir. Yvan Launay, pas un sportif, quoi. Pas un athlète de haut niveau, quoique, puisqu'il est pilote de chasse dans l'aéronautique navale, sur Rafale, je crois. Donc, c'est un militaire. Il est engagé dans la marine. Il est commandant en seconde de la base aéronautique et navale de Landivisiau. Quel rapport avec le sport? Justement, lui, il vient, lors de conférences, parler aux sportifs pour parler de la prise de risque. Comment savoir gérer sa prise de risque? Quand on est pilote de Rafale et qu'il faut apponter sur le Charles de Gaulle en pleine nuit, ben, il y a une notion de risque. Comment on gère sa prise de risque? Comment on assume son risque? Comment on gère sa fatigue aussi? Le genre de choses qu'un pilote d'avion de chasse peut apporter à un sportif de haut niveau dans l'échange. Dernière table ronde, il sera 21h30, mais on va prendre du retard bien sûr. Antoine Rosner et Philippe Dajou. Antoine Rosner, c'est un grand champion de golf français, c'est parmi les meilleurs européens. Moi, c'est un sport que je ne connais pas très, très bien, que je ne pratique pas, donc ce serait intéressant aussi d'échanger avec un golfeur. Tiens, je ne sais même pas, pardon, problème de culture, vous allez peut-être répondre à cette question, si le golf est olympique. Je ne crois pas. La question dans le chat, est-ce que le golf est... J'ai honte, hein, est un sport olympique. Répondez-moi, ça m'intéresse. Et Philippe Dajou, qui est réalisateur, qui est un cinéaste, il est olympique? Il est olympique depuis 2016, me dit Joe. Waouh! Ok. Voilà. Et un réalisateur, Philippe Dajou, voilà, qui s'intéresse beaucoup au monde du sport aussi, qui sera avec nous. Voilà. Vous en pensez quoi? Le menu, il est comment? Le menu, il est comment? Je vous lis. Hein. Ah, Sarah, on parlait de la boxeuse, me dit Alex Kilou, la boxeuse. Quelqu'un me disait, mais on ne pouvait pas connaître tout le monde. Hein. Qui est Sarah Ouramoun? Eh bien, dans le chat, c'est Alex qui me dit, c'est une légende méconnue. Effectivement, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire, qui a fait beaucoup de belles choses dans l'associatif aussi, et dans ce que la boxe pouvait apporter à différents publics, et notamment aux femmes en situation de fragilité. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de ça avec elle, mais c'est hyper intéressant. QB17 me parle de Marie-Josée Pérec, elle est rare dans les médias, Marie-Jo. Ça fait plaisir, moi ça me fait très plaisir, je suis très fan. Je suis toujours un petit peu ému de savoir que je vais la croiser. Voilà. Alain Bernard, alors l'immense champion dans tous les sens du terme, et Alain Bernard, un des mecs les plus cool ever, quoi. Je l'ai croisé tout à l'heure, j'ai eu la chance de le croiser. Au début, il m'a pas vu tout de suite, parce que il m'a pas vu parce que on n'évolue pas au même. Il m'a marché dessus. Bon, ça voilà, ça arrive. Non, en vrai, le mec est super gentil et je l'ai croisé avec sa famille, c'était super sympa. Donc ça va être un joli stream. Hein, que des légendes, exactement. Est-ce que ça va parler globules et oxygénation à Tignes? Ouais, Relato, bonne question. Ouais, est-ce que les sportifs vont s'oxygéner avant genre les jeux pour aller faire le plein de globules rouges? Eh, peut-être, ok, tiens, bonne question. MMG7F, Ami Modo, me dit que le golf au JO de Paris aura lieu à Saint-Quentin en Yvelines. C'est pas impossible, effectivement. Les modérateurs, je les salue. Il y a Broubrou06 qui est là, il y a Francis qui est là, il y a Julo18 qui est là, il y a Crimson qui est là, il y a MMG7F qui est là, il y a Takayov qui est là, il y a Nightbot qui est là, bien sûr, notre ami. Il y a même mon amoureuse, il y a Hélène qui est là. pas en modération, mais qui est dans le live. Quoi, il y a un sub qui vient de tomber qui est bizarre ? Oh, il y a l'ami Pépipin, notre ami, vous savez, qui a fait tout l'habillage de la chaîne et les émotes notamment, et qui fait les jolis visuels, notamment les visuels pour annoncer, tiens d'ailleurs, peut-être que Joe va les montrer, les visuels pour annoncer ce stream et celui, je ne vous l'ai pas dit demain matin, parce que demain, on stream encore en direct de Tignes de 9h à midi, cette fois plutôt sur le sport, bien-être, hein, ce que les champions peuvent nous apporter à nous, les sportifs du dimanche, en termes de qualité de vie, d'hygiène, ça va être intéressant aussi, on sera avec des médecins notamment, ça c'est demain 9h midi, et regardez, bah, ça c'est Pépin, qui a fait notamment ce visuel. Bon, là, il fallait trouver de la place, hein, parce que vous avez les 8 invités dont je viens vous parler, notamment Marie-Josée Pérec à gauche et Sarah, la grande boxeuse dont je vous parlais, qui est à droite. Et puis le beau gosse avec le bonnet à pompons, et au milieu, c'est moi. Le menu, il est salé. Merci, c'est incroyable. Ouais. Bah, bien sûr, mais quand vous voulez, quand vous voulez, quand vous voulez. Alors, on me signale que les premiers invités sont là, les amis. Marie-Josée, je suis tellement heureux. Ça va ?
Ça va bien.
Jo, où est-ce que je peux installer Marie-Josée ? Est-ce qu'il y a un... Bah, Marie-Josée. Okay. Sarah, enchantée. Comment ça va ? Je suis enchantée. Très heureux. Installez-vous. Marie-Josée, installez-vous. Est-ce qu'Alain Bernard est déjà arrivé ? Il va arriver.
Il arrive.
Alors... L'avantage d'Alain, c'est qu'on le voit de loin. Alain, rejoins-nous. Alain, voilà, tu as une petite place ici. Hey, c'est pas la télé, c'est Twitch, c'est Internet.
C'est Twitch.
C'est cool, c'est tranquille. Je les connais, je suis sûr qu'ils vont vous saluer tout de suite dans le chat. Marie-Josée, on s'était déjà croisés sur un live.
Oui, on en a fait un avec Kevin Mayer.
Ouais. À la maison de la radio.
C'est ça, ouais. C'était super.
À l'époque, c'était ton premier stream ou tu l'avais déjà fait ?
Non, c'était mon premier. Ouais.
C'est ton deuxième ? En fait, avec Marie-Josée, on se croise régulièrement. Bon, Marie-Josée, je ne veux pas te faire rougir, mais à chaque fois, je dis, quand je sais que je vais te croiser, je suis un peu ému parce que je suis très admiratif. Je te l'avais déjà dit, je suis un peu en mode fan, mais voilà.
Mais qui n'est pas admiratif de Marie-Josée ?
Exactement. Vous l'êtes tous les deux ?
Moi, je suis complètement
on est fan
depuis que j'ai 10 ans.
Sarah, dans le chat, il y a aussi des fans de vous.
Ah,
ouais. J'ai vu le mot légende tout à l'heure.
Ouais,
dans le chat. Voilà. Donc, regardez, on vous salue. Alors, je ne sais pas si vous voyez parce que l'écran. Il y a plein de petits cœurs. Il y a plein de petits cœurs. On vous salue. L'élite est présente, me dit qu'était Jure. Évidemment, chacun parle avec son tour. Il y a plein de petits cœurs pour vous accueillir, pour vous saluer. Voilà.
C'est super sympa.
Pour qui est-ce le premier stream, Alain ?
Stream Twitch, oui.
Oui ?
Oui.
Mais t'as déjà fait des choses sur Internet, en direct.
Ouais.
Mais sur Twitch, c'est la première fois.
Sur Twitch, c'est la première fois. Je suis ravi qu'on le fasse ensemble.
Bah, je suis très, très fier.
Ouais. C'est un début à tout.
Première fois aussi ?
Ah, c'est ta première ? Ouais, ouais, c'est même pas.
Donc en fait, l'ancienne, l'habituée de Twitch, c'est Marie-Josée.
C'est la plus expérimentée.
C'est quand même assez bizarre, hein, parce que c'est pas mon truc, hein, n'est-ce pas?
Et pourtant, si. Joe, en termes de micro, ça va? Alors, c'est des micros qui sont assez directionnels, qu'il faut avoir assez proche de soi.
Et en face.
De te le rapprocher. Okay. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit peu d'ambiance autour de nous. Okay. Et plus les micros seront proches, et plus on entendra vos belles voix, et avec le moins de. D'ailleurs, je crois qu'à un moment de la soirée, il va y avoir un peu d'ambiance, un peu de musique.
Ça,
même,
c'est un peu plus tard. Voilà.
C'est un peu plus sérieux.
Ça on stream pas pour ça.
un mot. Alors, j'ai déjà expliqué ce qu'étaient les étoiles du sport à ceux qui étaient avec nous tout à l'heure. J'ai lancé le stream il y a 20 minutes pour expliquer un petit peu le cadre. J'ai expliqué ce qu'on faisait ici, ce que vous faisiez tous à Tignes. J'ai aussi évoqué la problématique de ce qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire on est à 8 mois maintenant des Jeux Olympiques et la question de savoir, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'athlète, dans la tête des athlètes. C'est dur, dans la tête des athlètes. Dans la tête des athlètes, des grands champions, à quelques mois d'une grande échéance comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait ? Comment on se prépare physiquement, psychologiquement, dans la dernière ligne droite ? Et ça, ce sont des choses que vous connaissez par cœur tous les trois. Alors, je ne vais pas donner votre palmarès à tous les trois ce soir parce que ça ferait tout le stream. Hein. Donc, je vais donner vraiment l'essentiel, vraiment le minimum pour les rares qui ne vous connaisseraient pas et qui auraient vécu dans une grotte ces dernières années. Quand je dis une bêtise, parce que le journalisme est une activité faillible et parfois on se trompe, vous me corrigez, vous me dites non Samuel, c'était pas cette année-là, c'était pas ces jeux-là, vous me dites. Hein. Marie-Josée Pérec, seule française triple championne olympique.
Bon, ça
d'accord.
C'est vrai.
Ouais. 92-96, 400 mètres, 200 mètres. Premier athlète, homme et femme confondus, à avoir remporté le titre sur 400 mètres lors de deux Olympiades consécutives.
ça aussi, aussi. C'est vrai.
Double championne du monde du 400 mètres, record de France du 400 mètres, du 200 mètres, du 400 mètres et du relais 4x400 mètres. Toujours.
Oui, et le record olympique du 400 voilà. mètres.
Et je pourrais continuer, mais si on pourrait passer toute la soirée. Sarah Ouramoun. Sarah, merci beaucoup d'être avec nous.
Je suis ravie.
Tu es, on se tutoie ?
Oui, oui, oui.
Tu es la boxeuse française la plus médaillée de l'histoire de la boxe.
Oui.
C'est une bonne info.
C'est une bonne info.
Vice-championne olympique, 2016. Okay. Championne du monde, 2008. Triple championne d'Europe.
Oui.
Championne de France 10 fois, je crois.
C'est ça.
Waouh. Depuis 2021, vice-présidente de la Fédération française de boxe.
Oui.
Et je sais que tu as régulièrement aussi beaucoup d'engagement dans la vie associative. Voilà. Notamment dans ce que peut apporter dans la vie publique en général.
Hein. Ouais, dans tous les sujets politiques
voilà,
de la
exactement.
Ville.
Et aussi dans ce que la boxe, qui est ta passion, peut apporter à différents publics. Je crois que tu as créé une association, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, à destination des femmes en situation de difficulté.
Alors c'est une association qui utilise la boxe c'est comme ça. Outil d'émancipation, hein mais pas que pour des femmes.
Pas que pour des femmes aussi. Auprès des jeunes publics aussi, pour des jeunes peut-être.
Oui, c'est devenu des tiers-lieux sportifs d'accord. aujourd'hui.
C'est Boxer Inside ?
C'est ça.
Parce que je pensais aussi aux les puncheuses.
Les puncheuses, c'est encore un autre programme que j'ai développé.
C'est ça.
Bon. Elle est partout, elle fait tout.
Je vais à l'essentiel, hein, ouais, vous avez des vies remplies. Hein. Alain Bernard. Alain, tout à l'heure, évidemment, j'aime bien me moquer de ma taille qui est... Je suis pas dans les.
Non. Mais ça se voit pas à la télé.
Non.
Je t'imagine plus comme ça. Mais c'est pas la taille qui compte, voilà.
Et tout à l'heure, j'ai raconté qu'on s'était croisés dans le hall et que tu m'avais pas vu tout de suite parce que comme on n'était pas.
Pas au terme.
Attendez, on va rire parce qu'on est. On va se mettre debout. On va se mettre debout parce que ça va faire rire tout le monde.
Laisse tomber.
Ah, oui, voilà.
C'est ça.
Je ne suis pas dans un trou. Alain n'est pas sur une
estrade.
Et encore, il n'était pas.
Je suis pas en forme.
Alain Bernard, c'est un des plus beaux palmarès de la natation française. 4 médailles olympiques, dont 2 en or. Premier champion olympique sur 100 mètres nage libre.
C'est ça.
On est d'accord. 2008. Champion olympique du relais 4 fois 100 en 2012. Un titre de champion du monde, 7 titres de champion d'Europe.
C'est ça, je crois.
Je suis content parce que... Oui.
Non, mais parce que je sais pas, je vais sur Wikipédia.
Il y en a trop.
Ça commence à dater. Non, j'en ai pas trop loin de là, mais il y a du grand bain, du petit bain. Ouais. Mais en fait, les Jeux Olympiques, c'est vraiment ce qui régit nos sports. En plus, Marie-Jo, l'athlétisme, Sarah, la boxe. Donc, on est vraiment régi par ces sports olympiques. Et un titre olympique, ça vaut beaucoup par rapport à un titre mondial.
C'est le plus beau. On peut dire
c'est
que c'est
la rareté de l'événement qui en fait le rêve. Ouais. C'est ça.
Vous savez que je suis très impressionné d'avoir.
Mais on n'est pas les seuls, il y en a beaucoup d'autres des sportifs.
Oui. Juste une question un peu anecdotique comme ça, mais on a parlé de titres et de médailles. Est-ce que vous avez un endroit chez vous où tout ça est rangé ? Les médailles ?
Moi, je peux pas te dire, sinon je suis obligé de te tuer.
C'est caché.
Non, mais c'est caché.
C'est caché, mais
j'aime bien montrer les médailles pour les jeunes pour leur donner envie d'en gagner. Voilà, okay. C'est ma façon à moi de partager aussi. Parce que la première fois où j'ai eu des médailles olympiques dans les mains, c'était quelque chose de très émouvant pour moi.
De fort.
Donc quand j'en ai eu, j'ai envie aussi de montrer aux autres que c'était possible. Ouais. Voilà.
Marie-Josée, elles sont rangées.
J'ai entendu une anecdote, mais complètement nulle là-dedans, qui était dans la cave ou je ne sais pas quoi, dans un carton. Des médailles olympiques.
Alors en fait, pour moi, le principal, c'est le chemin. Et moi, je suis très attachée en fait, à tout ce qu'on vit sur en fait, une préparation olympique.
Ouais.
Donc pour moi, c'est le souvenir, c'est vraiment tout ce qui ressort de tout ce qu'on a pu faire. Et moi, j'étais pas du tout attachée en fait à
ces objets.
À la médaille en elle-même.
D'accord.
Et effectivement,
tu peux nous
pendant des années, mes médailles elles étaient à la cave. Mais j'ai eu un garçon et depuis quelques années, mes médailles elles sont remontées à la maison. J'avais peur qu'il ne me croie pas.
Il y a une anecdote parce que ce qui est formidable surtout, c'est que les gens nous regardent et échangent avec nous, ils nous posent des questions et parfois ils nous racontent des belles histoires. Il y a un internaute qui nous dit « Marie-Josée Pérec m'a donné ses chaussures après un meeting quand j'avais 8 ans à Lausanne.
Wow.
Ça a été mon bien le plus précieux pendant longtemps. Ouais. J'espère qu'elle dira ça. Voilà. »
Oh, c'est génial.
Mais c'est vrai qu'après les compétitions, je me déshabillais un petit peu pour donner... J'envoyais les chaussures dans les
tribunes. Donc Marie-Josée, ne fais pas trop attention à ses médailles et ses chaussures, elle les donne. Hein. Elle les donne. Sarah, il y a un endroit pour les médailles, les couples et à la maison.
Il y en a un peu partout, chez mes parents, chez moi. C'est un peu comme Alain, je pense que c'est des objets que j'aime bien partager pour raconter un peu tout ce qu'elle transpire, en fait, toutes ces années de travail, de rêve. Et puis partager aussi tout ce qu'il y avait derrière, l'espoir, l'ambition, le plaisir.
Tout ce que ça représente.
Mmh. tout à fait.
Alors, j'expliquais à nos viewers, c'est le terme consacré, il y a beaucoup d'anglicisme sur Twitch, qui est à l'origine une plateforme américaine, ce qu'étaient les étoiles du sport, hein, créé il y a plus de 20 ans maintenant, ce partage d'expérience entre les champions d'aujourd'hui, d'hier et les futurs champions, les espoirs, avec ce temps fort chaque année ici à Tignes. Et puis, cette table ronde de ce soir, plus précisément, la question qu'on se pose, c'est à 8 mois des Jeux Olympiques de 2024, comment les athlètes, donc il y a plus de 500 Français sélectionnés, plus d'une soixantaine d'ailleurs qui sont présents avec nous. Alain disait tout à l'heure, il y a plein de grands champions.
En fait, on a 150 athlètes aujourd'hui aux Étoiles du Sport sur les quelques jours qui sont en lice pour se qualifier à court terme pour Paris 2024. Et sur ces 150, il y en a 67
qui sont déjà qualifiés.
Qui sont déjà qualifiés.
62 qui sont déjà qualifiés.
Alors, d'accord, il faut savoir qu'il y a des sports olympiques, des sports paralympiques. Et en fait, pour vraiment resynthétiser et comprendre, bien expliquer aux gens, les Étoiles du Sport, c'est un événement unique en son genre qui fait qu'on peut se rencontrer avec des boxeurs, des athlètes, des voileux,
de
des nageurs, etc. Et en fait, quand on est aux Jeux Olympiques ou dans nos compétitions respectives, on n'a pas l'occasion de partager là-dessus. Et quand on est dans les Jeux Olympiques, on est tellement focus sur nos objectifs qu'on ne va pas parler préparation parce que c'est un peu un aboutissement. Et donc, c'est un événement qui a fait ses preuves puisqu'il est là depuis plus de 20 ans grâce à Sébastien Foucra et Benoît Eken qui ont formé ça il y a quelques années. Et donc, c'est pour moi un bonheur et une chance de pouvoir être convié depuis de nombreuses années. On sort de différentes tables rondes et c'est des sujets passionnants avec des jeunes qui nous posent des questions, qui nous idéalisent alors que finalement on est des êtres humains comme eux, on a nos forces, nos faiblesses et on a réussi dans nos carrières à transformer ça à un moment donné. On a envie de leur partager ces secrets.
Et on sent qu'à travers tes mots, qu'au-delà du partage d'expérience, il y a un partage humain aussi. Parce que vous dites, d'habitude on ne se croise pas. Et là, subitement, on peut se croiser, et se parler.
C'est physiquement qu'on se croise, c'est au-delà des réseaux sociaux.
Parce que c'est vrai que lorsqu'on est sur les jeux, je pense que chacun est quand même concentré sur son affaire. Et en fait, on n'a pas trop le temps, justement, de partager en fait, avec les autres. Et je pense que c'est vraiment essentiel. Ce soir, en fait, on a eu Edgar Gros-Piron.
Oui, je l'ai entendu.
Ce sont des paroles, ce sont des histoires qui sont tellement inspirantes que derrière, en fait, les jeunes, ils ressortent de là. En fait, lorsqu'on part d'ici, on repart toujours avec un petit quelque chose. Alexis Enquinquant, tout à l'heure, il me disait, tu sais, je suis venu l'année dernière, au niveau de la respi, il se passait quelque chose, je ne savais pas trop. Il a rencontré Alice Modolo et aujourd'hui, en fait, il a fait un travail.
Alice qui est une apnéiste, je crois.
Ouais, c'est la première femme à avoir descendu 100 mètres en apnée.
Donc, effectivement, en fait, on peut aller piocher des petites choses chez les autres et vraiment des choses sur lesquelles on n'avait même pas pensé, en tout cas avant de venir ici, travailler sur ces petits points-là. Donc,
et au-delà de cette discipline.
Il est essentiel, en fait, que ce mélange se fasse, en tout cas que les gens se rencontrent. Et pourtant, Alice, ce n'est pas un sport olympique. Et pourtant, on arrive à créer quelque chose, à créer des ponts pour pouvoir grandir par la suite.
Alice Modolo, elle a un parcours intéressant parce qu'elle est docteur, elle est chirurgien-dentiste. Elle est devenue apnéiste à un niveau incroyable. Elle sera demain matin avec nous, d'ailleurs.
Il y a 5 ans, elle a arrêté sa carrière de dentiste, de chirurgien-dentiste, pour se consacrer pleinement à l'apnée. Donc, c'est un super grand défi.
Et effectivement, avec un énorme travail de réflexion sur la respiration.
C'est vrai, c'est des choses auxquelles on ne pensait pas, nous, dans nos générations. Je ne sais pas, vous, les filles, mais bien sûr, on s'y préparait un petit peu, mais peut-être pas de manière aussi assidue qu'elle est capable de transmettre aujourd'hui.
Moi, je pense que justement. Effectivement, en fait, on n'avait pas cette occasion d'aller vers les autres et de chercher, en fait, en tout cas, tous ces petits détails qui finalement font la différence, en fait, à l'arrivée. Mais quand même, on se débrouillait, on tâtonnait.
Et à travers un atelier d'une heure, elle a su, il y avait 100, 120 personnes ce matin au bord de la piscine. C'était quand même une concentration extrême. Tout le monde avait envie de montrer qu'il était capable de faire bien. Il y en a qui ont fait 1 minute d'apnée, d'autres 1 minute 30. Donc, ils ont fait jusqu'à 4 minutes.
4 minutes, je n'ai
pas encore fait ça. Pas encore, Marie-Jarée
Mais j'ai déjà expérimenté.
Moi, je l'ai fait l'année dernière.
Et alors, on
pas terrible.
Et alors, on passe à autre chose.
On ne peut pas être bon partout, d'accord.
Moi, j'ai fait 2 minutes 30 parce que ce qu'il faut savoir aux états du sport, c'est qu'on peut se coucher très tard aussi. Il y a des moments de convivialité qui font aussi partie du concept des étoiles du sport. C'est et ça. Donc le lendemain matin, on est un peu moins performant.
Et puis il y a l'altitude. Ça joue sur les performances. Mais complètement.
À chaque fois que j'arrive à la montagne, les premières heures,
tout le monde.
C'est normal.
Je suis allé au village, l'ascenseur ne marchait pas, j'ai monté 3 étages à pied, ça se sent très vite.
Alors que des grands champions comme vous me le confirment, ça me rassure un peu. Je me dis, bon, c'est l'âge.
Non, c'est normal.
Et puis en plus, il n'y a pas un impact juste sur le souffle. Tout à l'heure, on faisait du partage mon sport en badminton et tennis de table. Ouais. Et il nous expliquait que même sur les rebonds de balles et tout, il sentait qu'il y avait une différence.
C'est incroyable.
Oui, il sentait.
Il disait même sur le bad, en fait, il sentait qu'il y avait quasiment 15 cm d'écart.
Avec la résistance de l'air, moins dense.
Ouais, c'est assez incroyable.
C'est fou. Alors, c'est marrant parce que du coup, il y a une compétition d'apnée dans le chat. Il y a l'Esquoy qui a fait 30 secondes, mais c'est pas une compète. Tiens, donnez-moi vos temps d'apnée. À mon avis, ça va plonger dans les baignoires à la maison. Là. 2 minutes 30, Alain, ça va être combien ça va être compliqué
2:30, ça se fait très facilement en vrai.
Si t'as une vraie préparation avant, en fait.
2:30, c'est compliqué. Hein.
Et je vous jure, dans ma reconversion, j'ai pas une hygiène de vie exemplaire.
Ouais, non, j'ai 1 minute 20, c'est parti en compète.
Moi, je suis plutôt par là, 1:20.
4 minutes 30. Ouais,
beginner.
Ah ouais, 4:30. Moi, je veux voir.
4:32.
Filme-toi.
Avec une narine qui dépasse.
Je veux voir.
Moi, il y a une question que j'ai posée à tous les grands champions que vous êtes ce soir. C'est à 8 mois des Jeux, quel conseil vous donneriez à un jeune athlète ça peut être sur le plan physique, ça peut être sur le plan psychologique, pour que le jour J, il soit au top du top du top. Sarah.
Alors j'essaye de me rappeler moi à 8 mois des Jeux, je pense que j'étais déjà très pressée, ça commençait à devenir très long parce qu'en général les préparations sont longues et on attend ce moment avec impatience. Moi c'était, je crois que ce qui m'a aidée c'est de m'organiser et de chasser un peu tout ce qui pouvait me parasiter dans ma vie personnelle et dans l'organisation pour être vraiment juste focus sur cet objectif et essayer d'éprouver le maximum de plaisir en fait, d'être le plus sereine possible parce que je savais que si j'allais être parasitée par la moindre chose, ça pouvait me prendre en énergie et m'éloigner en fait de mon objectif.
Alors du coup ce processus là tu as dû le faire à plusieurs reprises parce que des compétitions t'en as fait pas mal à très très haut niveau, ça veut dire que régulièrement dans les X mois ou X semaines précédant la compétition importante, tu faisais cette espèce de vide autour de toi dans tes activités.
Constamment, d'essayer de regarder quand même toujours très loin parce que après les Jeux c'est un peu particulier parce que c'est presque l'objectif final, c'est-à-dire que ce qui peut se passer avant les autres compétitions c'est juste des points d'étape pour aller vers cet objectif-là. Donc,
regarde. Parce qu'il y a l'ami Joe, le réalisateur de l'émission, qui va chercher des images.
Trop bien.
Là, on est au jeu, là. Tu peux nous commenter ces images?
C'est la demi-finale. C'est la demi-finale des Jeux contre une Colombienne que je connaissais plutôt bien, qui a toujours été sur les podiums internationaux, toujours médaillée, qui a été médaillée, là, d'ailleurs, encore à... Au jeu de Tokyo.
Vous étiez déjà rencontré en compétition auparavant?
En fait, je l'ai sorti du tournoi de qualification en 2012, donc il y avait un peu de tension.
Un peu de revanche.
Et ce qui est drôle, c'est que je l'ai revu au Chili il y a un mois. Ça faisait 7 ans que je ne l'avais pas vu depuis ce combat-là. On s'est retrouvés sur les Jeux panaméricains.
Et alors?
Et elle s'est qualifiée là, pour Paris 2024.
Waouh!
Voilà, donc ça nous a... Enfin, on s'est vus. Et on s'est sauté dans les bras, alors que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était sur le podium de Rio.
C'est trop beau. Voilà. Ouais.
Premier conseil que j'entends ce soir, donc Sarah, faire un peu le vide pour ne pas être distraite.
Ouais, en tout cas, ce qui peut nous parasiter, essayer de le régler. Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est
de ne pas se laisser pourrir
qu'on peut se donner ici pour en vue d'une compétition, ils peuvent aussi marcher dans la vie quand on a un événement professionnel ou autre. Marie-Josée, le conseil que toi, tu donnerais aujourd'hui à un athlète là, qui va au jeu dans 8 mois, ou que tu aimerais, ou tu aurais aimé qu'on te donne, toi, à tes débuts?
Alors en fait, moi, le conseil que je donnerais, en fait, moi, je dirais en fait aux sportifs de se concentrer tous les jours sur les gestes en fait à répéter. Moi, je trouvais que d'être vraiment concentré sur les petites choses, hein, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que je pense réellement que c'est ce qui fait la différence au bout, c'est de les répéter, de les peaufiner, c'est de faire corps avec ça, parce que moi j'avais le sentiment que au fur et à mesure que le temps avançait, en fait, ma confiance, je prenais beaucoup plus de confiance parce que ces petits gestes, hein, en tout cas ces petites choses, me mettaient justement dans la bonne configuration pour le jour J, quoi. Voilà. Oh là là, il y a des trop belles images.
Il y avait des clients quand même en face. En
ouais, ouais.
Alors, on est quand Marie-Josée là.
Et puis là, en fait, c'est le 200. Et 8 mois avant, puisqu'on parle des 8 mois, Michael Johnson, il a réussi à faire changer les horaires pour qu'on puisse pouvoir faire le doublé. Et je le vois sur le stade. Et je lui dis, mais c'est trop génial parce que ils ont aussi changé les femmes. Donc, tu seras pas tout seul, on sera deux. Et il y avait les horaires. Et je lui dis, mais en plus, je vais le faire avant toi.
Avant même que tu n'aies fini tes courses.
Joe, laisse les images parce que là, si le départ de la course est imminent, à 200 mètres, c'est... Ah non, là, on n'a pas la course.
On peut.
Ah, dommage.
Là, c'est Atkins. Ouais.
Tu peux l'être. Parce que, voilà, recale-nous, on va se la regarder.
Wow. Hein, bah oui.
Un 200 mètres, c'est pas très
tu
long.
Tu me la commentes alors.
C'est extraordinaire parce que. Mais en fait, j'ai quand même un peu peur parce qu'avant la finale, une heure avant, je fais en fait une petite crise d'hypo puisque c'est ma 8e course en 9 jours. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'était une très très grosse préparation. En face, ben il y a les meilleurs, hein, et puis il y a surtout Merlène Otte, la fille en fait qui a gagné toutes les médailles, mais sauf l'or.
Sauf, ouais.
Et moi je l'admire. J'ai du mal.
Ah, mais les dernières foulées sont dingues.
Et je sais que tu as célébré avec retenue. Oui, cette victoire, justement en pensant à Merlène Otte.
Exactement.
Qui en fait ici en fait.
Je suis partagée en fait.
Elle va peut-être être jamais championne olympique puisque c'est le titre qui lui manque.
C'est ça, et elle est déjà assez âgée. Ouais. Donc la collade, elle est pas très parce que elle est très déçue,
elle est triste.
Très très déçue. Ouais. Et donc, je n'ai pas pour habitude de m'exprimer en grand, hein, mais quand même, je reste assez soft. Voilà. Parce que j'ai cette retenue envers elle, j'ai l'impression que je vole quelque chose. Je suis heureuse, mais j'ai volé quelque chose en fait à quelqu'un.
Qu'elle te félicite.
Voilà.
Et on voit les derniers mètres.
C'est magnifique.
Et c'est en voyant ces images-là, et là on se dit qu'il y a dans la salle ici plein de très jeunes athlètes qui rêvent des Jeux et que vous avez fait peut-être rêver et même sûrement, et c'est peut-être grâce à vous. Alain disait tout à l'heure, je vois des jeunes sportifs venir me voir en disant très un peu les étoiles dans les yeux en disant mais moi je suis comme toi, je suis une personne comme les autres, sauf que vous les avez fait rêver. Et ces images-là.
Ce qui est génial, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là aujourd'hui et tous les espoirs n'étaient pas nés en fait à l'époque où Marie-Jo a fait ça et que finalement Marie-Jo ça leur parle parce que ça traverse le temps, ça a marqué des générations. Enfin voilà, moi j'en ai eu des frissons. J'avais 10 ans ou 11 ans quand Marie-Jo a fait ça et je pense que je me suis rêvé à m'identifier à elle en fait quand j'étais gamin en disant mais waouh,
c'est incroyable.
C'est ça qui veut dire gagner, représenter son pays aux Jeux Olympiques, ça veut dire ça. Tout l'engouement, tous les frissons pour des courses qui durent quelques secondes et des années de travail, c'est le cycle éternel en fait de l'apprentissage permanent, de la transmission, etc.
Alain, toi justement,
et moi 8 mois avant les Jeux,
oui, tu viens de dire le mot transmission, alors c'est ça.
Justement, en fait ici, ce que je voulais dire tout à l'heure, je me suis perdu quand tu m'as posé la question, mais on a la chance de partager avec beaucoup de sportifs, d'anciens sportifs, de jeunes espoirs et de professionnels du sport. Quelques mois avant les Jeux Olympiques, moi, je suis passé par toutes les phases émotionnelles parce que j'ai eu battu des records du monde. Je suis arrivé en position d'ultra favori aux Jeux Olympiques.
Ouais, t'étais le plus fort du moment.
Et il m'est avéré. Et en fait, quelques mois avant les Jeux, je me suis retrouvé tout seul au bord du bassin en larmes en me disant j'y arriverai jamais. C'est un défi beaucoup trop grand. Je vais avoir beaucoup trop de pression.
La pression.
Et en fait, la force qu'on a eue, c'est que mon entraîneur a échangé beaucoup avec. L'adjoint de Claude Onesta des handballeurs qui avait cette expérience de gestion de groupe et du stress dans des grands rendez-vous, il nous a dit attention Alain, il va passer par toutes les phases émotionnelles, il faut vraiment qu'il avance, qu'il soit dans un état positif, qu'il soit dans un état un peu en déclin, il faut qu'il avance au quotidien et jour après jour et entraînement après entraînement et qu'il ne se laisse pas submerger par ses émotions. Et voilà, ça se concrétise quelques mois après avec 11 petits centièmes d'avance qui vont changer ma vie à jamais face à cet
Australien.
Et c'est extraordinaire parce que, voilà, 4 ans avant, je rate ma qualif olympique pour 17 centièmes de seconde. Et de dire que, ben voilà, avec de l'envie, de la passion, de l'acharnement, eh ben on arrive à atteindre ses objectifs. Je suis assez âgé, entre guillemets, à 25 ans quand je suis champion olympique, alors que la plupart des autres en équipe de France ont 20 ans. Et on dirait pas, mais je fais 10 kilos de moins qu'aujourd'hui sur cette vidéo.
Ici, là ?
Ouais.
Ah ouais ?
Tellement tu es sec.
Ouais, le poids est passé ailleurs. Je sais pas où il est passé.
Je sais pas.
Dans la transmission, on n'arrive pas à transmettre le poids. Il faut qu'on.
Mais là, tu viens d'évoquer quelque chose d'important. Oui, mais le doute aussi, parce que vous avez sans doute toutes connu ça, des moments de doute très très forts. Enfin, c'est consubstantiel à la carrière d'un sportif de haut niveau, je suppose. Alain en a parlé. Sarah, j'ai évoqué ton palmarès, qui est un palmarès de fou. Tu es la boxeuse française la plus titrée de l'histoire de ce sport. Et pourtant, il y a dû y avoir des moments de doute.
Toujours. À chaque combat, jusqu'au dernier. Mais ça fait partie, en fait, de presque de l'expérience du ring, quoi. S'il y a pas de doute, ça va pas. Parce qu'en fait, c'est ce doute qui va permettre d'être beaucoup plus vigilante, d'être peut-être plus engagée dans sa préparation, d'être bien concentrée sur le combat, d'être très alerte, en fait, sur tout ce qui se passe et de capter tous les petits détails qui vont faire qu'on va réussir à monter une stratégie qui va être gagnante. Donc c'est nécessaire. En fait, moi, je crois que j'ai toujours eu besoin d'avoir ce doute, et c'est ce doute qui m'a aussi permis de me remettre en question, de vraiment tout analyser en me disant, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que la méthode est bonne? Est-ce que mon attitude, ma posture est juste, ou est-ce qu'il faut que je la modifie?
Et au moment où le combat débute, ou la course débute, qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête? Je suis le plus fort, donc je vais gagner. Ou non, on est dans le doute et la surmobilisation en mode « je ne suis peut-être pas le plus fort, mais je vais gagner ».
Non, mais le doute, en fait, c'est pas quelque chose qui a été négatif pour moi. Ouais. Et ça ne m'a pas empêché d'un moment donné de switcher dans un état d'esprit de championne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le gong retentit, c'est bon, je suis quelqu'un d'autre, je suis dedans. Il y a eu ces moments de questionnement, mais là, on est dans le moment présent. Et on est concentré sur ce qu'on doit faire, sur la stratégie. Et donc, le doute, ça y est, on l'a traité. Ce n'est plus le moment, on en reparlera plus tard. Mais en fait, c'est cette capacité à switcher, à rentrer vraiment dans le combat, dans la compétition, et à adopter cette posture de championne et de faire le job, quoi.
Je ne lis pas tous les gentils messages qui vous sont destinés, parce qu'il y en a beaucoup, mais tout à l'heure, Marie-Josée, quand on a évoqué les souvenirs d'Alain à ton propos, quelqu'un disait « Moi, je n'étais pas né quand Marie-Josée a fait ses médailles, mais pourtant, je la connais et je sais ce qu'elle a fait. » Quelqu'un me disait « Moi, j'avais 6-7 ans, mais je n'ai jamais oublié ces images. » Dexort, on dit « Alain Bernard, tu m'as fait rêver en 2008, les premiers JO que j'ai regardés, et la tension de cette médaille, une légende de la natation française. » Sarah, quelqu'un me parlait à propos de toi d'une légende. Je reviens au doute, Marie-Josée, le doute au moment. Moi, on a envie de rentrer dans la tête des grands champions.
Il faudrait pas, parce qu'on est très compliqué, on est très complexe.
Mais sur la ligne de départ, au moment où le starter va retentir, tu te dis, je vais gagner parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait, ou je sais pas si je vais gagner, mais je vais tout faire pour le faire. Qu'est-ce qu'on se dit?
Alors moi, je pense en fait qu'il faut arriver avec cet état d'esprit, en fait, qu'on va gagner, pas qu'on va essayer. Moi, je pense qu'en tout cas, moi, c'est comme ça que je faisais. Mais j'ai aussi envie de dire aux gens que c'est pas parce que on arrive en fait avec cet état d'esprit que finalement le corps transpire ça. Lorsque je rentrais en fait sur la piste pour la finale, je dis aux gens, j'avais tellement peur et j'étais tétanisée. Moi, je rentrais et je me disais, mais en fait, tu vas te faire écraser, t'es comme une petite fourmi. Et je me parlais au fur et à mesure que j'avançais pour aller me mettre debout derrière mon start. En fait, je me disais, mais là, il faut que tu te transformes parce que là, t'es une fourmi, tu vas te faire crabouiller. Et quand j'étais derrière mon starting block, mon cœur, il battait tellement fort que j'avais peur qu'il s'en aille, qu'il sorte.
Tu l'entends, en fait.
Mais c'est insupportable, ces moments-là.
Et, c'est une tension qui est extrême.
Et en 92, je découvre, à ce moment-là, je me dis, il y a tout le monde qui m'en regarde. Il y a tous les gens en Guadeloupe. Et ils attendent quelque chose. Je ne peux pas les décevoir. Et là, j'ai une image en fait qui vient, parce que moi, j'ai grandi à côté d'une rivière. J'allais pêcher aux écrevisses quand j'étais enfant. Et donc, j'ai ce bruit de l'eau de la rivière qui coule. Et d'un seul coup, mon cœur il ralentit. Il ralentit et je suis derrière mon start et je ne comprends pas. Et je me dis, mais en fait, ce truc-là, c'est ce qu'il me faut, quoi.
Et, c'est ce qui m'apaise.
Et je vais chercher encore plus loin. Mais bon, je vous raconte ça, ça dure longtemps, mais sur le moment, ça va très, très vite. Et là, d'un seul coup, je suis soulagée. Je suis soulagée et je prends mon souffle, je prends tout ce qu'il y a et puis j'entends dans le stade wow. ça le brouhaha qu'il y a, enfin c'est
cette transformation que tu évoques, c'est en quelques secondes,
en quelques mètres. Secondes. Et donc c'est devenu mon petit outil que j'ai utilisé tout le reste de ma carrière. Je suis allée chercher cette image-là.
C'est une image mentale. Mais en sophrologie, c'est quelque chose
exactement.
De...
Ouais,
c'est une image qu'on va chercher, qui produit quelque chose chez soi.
Mais moi, je ne savais pas. Et en fait, j'ai fait ça...
De façon empirique, quoi.
Exactement.
C'est là où la notion de transmission qui est au cœur des étoiles du sport est importante, parce que tous ces petits trucs, ces trucs que parfois on découvre tout seul, eh bien parfois c'est un autre champion, un autre athlète qui peut. On parle de travail sur la respiration. Là, on vient de parler de la force des images mentales.
On leur fait gagner du temps. Hein.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Donc maintenant, on leur dit, écoutez, allez chercher votre outil. Il y en a un qui est bon pour vous. Ouais. C'est pas le bruit de la rivière, ça c'est le mien. Mais vous en avez un, faut le trouver. Ouais.
Et c'est vraiment une hyper-connexion à toi, qui tu es vraiment, d'où tu viens et de tout ton parcours qui va s'exprimer en quelques secondes. Et là, on sent que l'esprit, le corps se connectent dans sa quintessence de tout le travail, de tout le doute qu'il y a eu avant. Et là, on est prêt pour cette expression. Je permets juste une légère anecdote, parce que j'ai eu ce sentiment aussi, moi, dans ma finale olympique. Les 15 derniers mètres, à chacun des mouvements, j'avais des flashs, tout en restant lucide dans ma course, dans mon tempo. Comme si j'allais mourir et je voyais ma vie défiler.
Dans les 15 derniers mètres.
Oui. Et c'est-à-dire qu'à chaque moment, je voyais un flash, je me voyais gamin en train d'apprendre à nager. Le mouvement d'après, je me voyais en pleurs au bout du bassin 3 semaines avant. Le mouvement d'après, je me voyais en train de battre un record du monde. Et tac, 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 tac. Et un sentiment.
Et ça te porte.
Oui, oui. Et il y a beaucoup de personnes à qui c'est arrivé. On a discuté avec.
Sarah et Marie-Josée, ça semble vous parler aussi. Hein.
Parce que moi, sur un combat, c'est beaucoup plus long.
C'est plus
donc il y a plein de choses qui se jouent. Ouais. Mais il y a l'adversaire qui est en face. Et en fait, on n'a pas le temps et on peut pas à un moment donné sortir du combat pour être dans ces pensées-là, parce que il y a une réponse en face. Donc on a quand même cette nécessité d'être vraiment connecté à l'autre et de jamais le lâcher, et donc on peut pas s'autoriser ces moments-là, parce que c'est des fractions de secondes qui font qu'on peut
perdre
un combat, ouais.
Qui peuvent être décisives. Je surveille le temps, parce que même si on a le temps sur Twitch, je regarde Joe. Est-ce qu'il faut que je me prépare à la deuxième table ronde ou ça va encore ? Parce que j'ai encore des questions pour mes invités. Est-ce que je peux encore poser une question ? Par rapport aux autres invités, oui. 5 minutes, formidable. La question que je voulais vous poser, c'est je reviens, mais 8 mois avant les Jeux. Est-ce que dans les 8 mois avant les Jeux, on peut encore progresser ? C'est encore le temps de la progression ou c'est terminé ? On a fait le travail et on peaufine, on entretient, on évite la blessure.
On travaille jusqu'au dernier moment, en pleine préparation.
Ah ouais. Et en fait, je peux parler pour l'athlée. En fait, il y a tout le travail foncier justement qui sont encore en train de faire. Donc là, il faut engranger pour être fort.
Et paradoxalement, il y a une démarche aussi très égoïste, parce que selon les sports, il y a des méthodes de qualification qui sont complètement différentes.
Ouais.
La natation, par exemple, ils devront attendre jusqu'au mois de juin. Ils auront une course, un championnat de France, une course pour se qualifier.
Tous ou certains.
Toute l'équipe de France.
C'est
le dernier moment. Il y en a d'autres qui sont qualifiés depuis d'autres mois dans notre sport. Mmh. Et donc, selon les fédérations et les critères de sélection,
comme à l'athlée,
l'aviron, il qualifie un bateau. Et l'équipage, les personnes qui vont constituer cet équipage ne sont pas encore choisies. Ils le seront assez tardivement. Donc voilà, ça crée une certaine inégalité ou inéquité. Ouais. Mais en termes de sérénité de préparation, par exemple, Clarisse Abgenonio est qualifiée, on l'a su officiellement depuis une semaine, 10 jours.
Mais je pense qu'après, en fait, les grands champions comme ça qui vont pour une médaille d'or, et on sait, en France,
il n'y aura personne qui
sera devant Clarisse, donc je pense qu'il faut les protéger.
Donc, ouais, il y a des postures qui sont différentes en fonction de son sport, son statut et du mode de qualification.
Et en tout cas, on travaille jusqu'à la dernière seconde et de la course, du combat, du match, du tournoi.
Et puis on ajuste en fait à chaque fois.
On est dans ce peaufinage, c'est de la très haute couture. Et dans tout ça, en voyant toutes ces images, quand même, ce qui nous anime et ce qui nous passionne aujourd'hui, nous trois, comme toutes celles et ceux qui sont ici, ce sont les valeurs que l'on porte, les valeurs du sport que l'on défend, qui doivent être encore et toujours plus appliquées dans la société. Et on se rend compte, voilà, qu'il y a des dérèglements qui se passent dans notre société, il y a des contextes économiques, géopolitiques qui nous dépassent. Néanmoins, le sport, ça a permis aussi de faire changer le cours de l'histoire à certains moments dans le passé. Et on est convaincu, en tout cas, que ces valeurs du sport sur notre territoire national, ça peut aider à rendre les gens plus bienveillants, attentionnés, plus résilients dans leur travail et plus respectueux, etc. Donc ça, c'est des choses que l'on porte et on pourrait refaire une autre
table. Et peut-être aussi, en fait, à pousser, moi je dirais, en fait, à notre population à être un peu plus
active.
Sportive.
Oui,
même faire une petite activité physique, ça serait génial. En tout cas, ça serait l'un des héritages qu'on voudrait.
Le sport au quotidien en France, on sait qu'on a encore beaucoup de progrès à faire, et notamment pour l'impact pour la santé. On sait que si les Français et les Françaises faisaient un petit peu plus de sport au quotidien,
et tout le monde le paye, la protection sociale, tout le monde paye, tous les contribuables payent la sécurité sociale, ça a un coût.
Il y a
finalement
des études.
L'investissement dans le sport, ça peut que nous être bénéfique indirectement. Je vais peut-être très loin, je pousse le curseur loin. Mais dans notre pouvoir d'achat.
Vous savez ce qu'on va faire d'ailleurs? On va arrêter tout ça, on va aller courir dans la neige, tous les gars.
On va pas tomber malade parce que ça va coûter cher.
Je vais vous libérer quand même. Mais une dernière question, parce que ces valeurs, elles vous ont porté, elles vous ont amené là où vous êtes allé avec ces palmarès incroyables. Elles continuent à vous porter aussi sans doute dans votre vie d'aujourd'hui, vie d'après, qui est souvent une vie professionnelle d'ailleurs. Juste un mot de ce que vous faites aujourd'hui, Alain, plein de choses. Je crois que tu as créé une société il n'y a pas longtemps.
Oui, beaucoup de choses. Dernièrement, une start-up qui s'appelle Poulon, on projette des images dans le fond des piscines pour favoriser l'apprentissage de la natation, lutter contre les noyades et éviter de compter les carreaux quand on nage. Donc on est
un peu ennuyeux ça.
C'est
parfois.
Ça, ouais. Donc voilà, je serais ravi de te faire tester.
Des images au fond de la piscine, ça me plaît bien.
Toutes les images. On peut même revoir les courses et les combats des filles en nageant.
Bravo. Marie-Josée, aujourd'hui.
Alors moi, je fais en fait de la préparation mentale avec un coach mental et on accompagne quelques sportifs qui préparent les jeux.
Ouais. Ah, excellent. Ouais. Sportif. Parce que la préparation mentale, ça peut aider dans d'autres registres.
Pour l'instant, c'est que le sport. Ouais.
Super. Sarah.
Moi, toujours comité olympique, COJO Paris 2024 aussi, fédération de boxe et puis mes tiers-lieux sportifs, donc ces clubs qui proposent des programmes d'accompagnement au-delà de l'entraînement pur.
Ça, c'est formidable. Et c'est le sport, effectivement, qui parfois permet de construire.
Complètement, parce que l'idée, c'est d'utiliser vraiment le sport comme outil d'éducation, d'émancipation, d'insertion.
Il y a MMG qui dit comment ça s'écrit le nom de l'entreprise, Alain, tu vois.
C'est Poulon, P-O-O-L-O-N.
Poulon, piscine.
Voilà,
et on allume les piscines.
C'est déjà opérationnel?
On est en phase de test et on l'a expérimenté au Club Med d'ici à Tignes, donc c'est top.
Ça
va vous donner envie de nager. C'est ça qui est bien.
Un grand merci à tous les trois. C'était un plaisir de vous recevoir.
Bon, merci.
Vraiment,
merci.
Un joli cadeau. Passez une belle soirée. Puis, une belle fin d'étoile du sport. Et à bientôt, Marie-Josée, pour notre troisième stream.
Ah, avec plaisir.
À bientôt, tout le monde.
Je commence à aimer ça.
Ah, oui, formidable. Merci. Je suis vraiment heureux de vous avoir reçu. Les amis, on est donc. Alain, c'est un tour internet, c'est cool. On est donc en direct de Tignes. On est à la montagne. Voilà. On ne remonte pas la neige, il fait nuit. On est en direct des étoiles du sport. Alain Bernard a très bien raconté ce que sont les étoiles du sport. Les étoiles du sport, c'est cette organisation qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, qui met en relation les champions d'aujourd'hui et d'hier avec les espoirs de demain pour justement du conseil, de l'accompagnement. Voilà, à chaque fois, c'est un par un en fait, qui choisit un espoir et qui l'emmène vers la performance. Donc, on reçoit maintenant deux nouveaux invités. Voilà, ils sont avec nous. Ils vont nous rejoindre, je vous les ai annoncés. C'est Michael Jérémias et Julien Veneto. Comment ça va? On enchaîne. Alors, pour moi, c'est incroyable parce que je vois croiser plein de grands champions. Joe, où est-ce que tu veux que j'installe Julien?
Il va aller.
Vous allez tout.
Là, je me mets là, je vais mettre là, moi.
C'est bien, ça va aller là, comme ça, c'est bien.
Je me mets là ou là? Là, c'était mieux pour moi, mais c'est pas de soucis. Tu veux que je mette tout, moi? Mets-toi ici, comme ça, je vais recadrer sur toi.
Ah oui.
Tu
viens
à ta boîte ? Bah ouais.
Comment ça va, Mickaël ? Depuis la dernière fois, on s'est vu sur un skatepark.
Ouais.
Ça s'invente pas.
Tu m'as fait découvrir Twitch.
Bah, décidément, je fais découvrir Twitch à plein de gens. Oui, c'était ton premier stream.
C'était mon tout premier.
Et c'est ton deuxième maintenant.
Exactement, de toute façon, je ne fais qu'avec toi.
Et tu veux pas lancer ta propre chaîne ?
Ah.
Parce que pour la petite histoire, Mickaël Jeremias, donc le grand champion de tennis fauteuil, on s'est rencontré au Trocadéro. C'était une belle opération autour d'un skate park, wheel park aussi d'ailleurs. Il y avait pas que du skate, qui était itinérant et qui était destiné à des publics valides et en situation de handicap. Donc c'était une belle opération. On s'est retrouvé sur un stream côte à côte. On a joué d'ailleurs.
Ouais.
On l'équipe.
On a gagné. Enfin, on a laissé gagner sur la bataille.
Ouais, voilà. Ouais. C'était drôle. Donc, Mickaël, je suis très heureux de te retrouver. Et Julien Beneteau, comment ça va, Julien ?
Très bien, merci.
Alors, question rituelle quand on arrive sur Twitch. Est-ce que c'est ton premier stream sur Twitch ou pas ?
Oui.
Et vous savez que ça me fait plaisir de vous faire découvrir tout ça.
Bah, oui.
Attends, alors, je vous montre un petit peu l'interface. Bon, Mickaël, c'est un habitué maintenant. Regarde, Julien, je vous montre. Hop. Ici, vous avez donc la plateforme qui nous permet de streamer. Ici, vous avez l'ami Joe, le réalisateur. Et ici, très important, le chat. C'est-à-dire que tous les gens qui nous regardent nous interpellent, peuvent nous poser des questions. Voilà. Et c'est les messages qui défilent. Alors, ce qui est difficile pour moi quand je reçois les invités, c'est que je pose des questions, je les écoute, et en même temps, il faut que je regarde le chat. Et d'ailleurs, c'est ennuyeux parce que du coup, je me dis que j'ai toujours peur que les invités me trouvent très impoli parce que je pose une question.
Et vous ne
regardez répondent,
pas.
Et moi, après, je regarde le chat.
J'ai un peu mal pris la dernière fois. Je ne trouvais pas très intéressé par tes invités.
C'est toujours un peu ennuyeux. Et là, tout le monde vous dit coucou, bonsoir.
Bah, bonsoir à tout le monde, on
salut,
est ravis. Hein.
Tout le monde. Comment se passent vos étoiles du sport à tous les deux ?
Bah, très bien, comme d'habitude, ici, on est. Remarquablement accueilli.
C'est vrai que leur gars est top. Hein.
Voilà, par les équipes des Étoiles du Sport, Sébastien Foucras en premier, et ici au Club Med, on a.
Tu disais comme d'habitude parce que c'est ta combienième fois ?
Ah, tu vois les habitudes.
Ouais.
Hein,
ça fait ça fait, je sais pas, 7-8 fois.
Ah oui.
Ouais.
Ah, je suis plus vu.
6-7 fois, je pense que j'en reviens pour les Étoiles du Sport, et donc c'est toujours un moment super agréable de pouvoir être entre sportifs, mais pas que, de toutes les disciplines.
C'est ça.
De pouvoir échanger avec des espoirs, avec des gens à la retraite comme nous, avec d'autres en activité qui sont très, très, très forts. Et voilà, toute cette différence fait que ces échanges sont très enrichissants pour tout le monde, on l'espère. Et en tout cas, pour moi, ça me sert toujours actuellement.
Mickaël, c'est ta première
17e fois.
Non.
17e, toi ?
Non.
Ah ouais. Ah oui.
Ça fait 22 ans que ça existe.
Ouais, tu es là quasiment depuis le début.
Ouais, je suis venu en 2006 la première fois, j'en ai jamais loupé. Et on est pas mal. On est pas mal ici.
Alors, 17e fois, ça veut dire que l'événement te plaît. Et au-delà de l'événement, en fait, c'est ce que j'expliquais à ceux qui nous regardent ce soir. C'est pas juste une semaine par an, hein. C'est un programme qui se déroule toute l'année. Qu'est-ce qui te plaît autant pour que ce soit ta 17e année aux Étoiles du Sport ?
En fait, c'est son utilité. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé, j'ai été parrain. C'est comme ça qu'on est introduit au départ. J'étais parrain donc, d'un jeune tennisman. Et donc, en fait, sur la transmission de ce que nous, on peut apporter en tant qu'ancien, même si à l'époque, j'étais quand même en activité, transmettre en fait aux jeunes générations ce qui va leur permettre d'être des meilleurs athlètes.
Les tips, les trucs, les conseils.
Tous les petits trucs que nous, on a expérimentés. Et en fait, c'est quand même des petits... C'est, des fois, c'est le truc qui fait la différence, vraiment, et on le voit. Et alors, ça s'est professionnalisé. T'as énormément maintenant d'ateliers tous les jours où on va les accompagner sur la prépa mentale, on va les accompagner sur.
Attends, je m'approche un peu loin, non, ouais, c'est de ma faute, ouais. C'est pas fait attention, voilà.
Ouais.
Attends,
tu les accompagnes sur du média training, tu les accompagnes sur la gestion de leurs réseaux sociaux, de leur partenariat, l'accompagnement à leur conversion professionnelle.
Ah, c'est pas que c'est important parce qu'on en a pas parlé, on peut pas parler de tout. Juste avant avec Alain, Sarah et Marie-Josée, il n'y a pas que l'aspect sportif. Tu parlais de l'après, tu parlais aussi de la gestion de l'image, des réseaux sociaux.
Ouais.
En fait, c'est tout ce qui est périphérique à la performance sportive qu'on imagine être uniquement l'entraînement sportif, la prépa physique. Maintenant, la prépa mentale s'est démocratisée quand même dans le sport et c'est tant mieux. Et puis en fait, tous les trucs qui viennent te perturber, la nutrition, et puis aussi comment tu gères ta structure, une entreprise, comment aujourd'hui tu t'entoures, comment tu rebondis après un succès, après un échec. Tous ces éléments qui te permettent de vraiment pouvoir le jour J être au top de ta performance.
Ouais, j'ai oublié quand même de... Je peux pas citer tout votre palmarès à tous les deux parce qu'on pourrait y passer une partie de l'émission, mais très rapidement, et si je dis une bêtise, vous me corrigez tout de suite. Mickaël, donc champion de tennis fauteuil, c'est le terme consacré aujourd'hui, c'est ce qu'on dit. 4 médailles olympiques, une médaille d'or en 2008, 8 titres en Grand Chelem. En double. Julien, 10 finales ATP, 12 titres en double.
Ouais.
Vous êtes un peu des spécialistes de double, tous les deux, d'ailleurs. C'est amusant. Capitaine de l'équipe de France de Fed Cup.
Exactement.
Enfin, qu'on n'appelle plus la Fed Cup, oui, on l'appelle la Billie Jean King Cup aujourd'hui. Fed Cup, c'était plus rapide.
Ouais. Donc quand elle s'appelait comme ça, on l'a gagné.
C'est ça.
Donc mais c'était ça, bien mieux.
Mais c'est, d'ailleurs, ça a beaucoup changé, non
le format.
Ça. C'est ça aussi. C'est peut-être pour ça qu'on.
Il te plaît ce nouveau format, Julien ?
Pas trop.
Non.
Pas trop.
C'est un sujet.
Un sujet touchy.
Est-ce que, Julien, on évoquait tous les conseils que aujourd'hui les parrains et les sportifs, les champions d'aujourd'hui, pardon, et les champions d'hier donnent aux espoirs, aux futurs champions de demain. Est-ce que, justement, toi, il y a des conseils, des tips, des accompagnements que tu n'as pas eu et que tu as découvert un peu tout seul ou que tu n'as pas découvert et que tu aurais aimé avoir dans le cadre de cette structure à l'époque où tu étais en activité?
Au
début, notamment quand tu étais jeune.
En fait, quand on est en... Ouais, quand
attends,
on...
Il est plus tout jeune.
C'est pas très sympa ce que je viens de dire.
Non, mais en fait, quand on est jeune, aspirant et quand on rentre dans le milieu professionnel, surtout dans le tennis, on est très centré sur nous, sur notre discipline, sur notre circuit, sur notre période d'entraînement, nos tournois, etc. Et moi, quand je suis venu ici la première fois, je me suis dit, mais c'est incroyable qu'il n'y ait pas plus de tennismen qui soient venus en profiter de cette richesse extérieure, de découvrir certains jeunes champions dans certaines disciplines qui galèrent pour faire sport et études en même temps, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ne sont pas dans un sport ultra professionnalisé. Comment ils concilient les deux, comment ils sont performants, et ça ne les empêche pas d'être performants dans leur sport, de vivre d'autres problématiques qui nous remettent un peu à notre place et qui remettent les choses en perspective. L'humilité, tout à l'heure, on a eu la chance d'avoir Edgar Gopiron qui a fait une masterclass sur son titre olympique.
Edgar Gopiron, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est immense champion de ski de boss.
Voilà. Voilà. Et champion olympique en 92. Ouais. Et qui parlait que lui, l'audace l'avait servi à être champion olympique et l'humilité. Et cette humilité, en fait, c'est ce qui un peu définit aussi ces étoiles du sport. C'est quand on en discute avec Sébastien Foucras, c'est qu'il peut y avoir un triple champion NBA qui est ici, mais il est traité de la même manière que la petite escrimeuse qui...
Il a quand même une meilleure chance.
Oui, il a une meilleure chance, vraiment.
Moi, j'ai attendu 7 ans pour être au dernier étage du club, je peux te dire, ça
a mis
du temps.
Mais il n'y a pas de différence, tout le monde est habillé plus ou moins de la même manière, tout le monde parle avec tout le monde, et cette égalité, cette équité, c'est vraiment une force de cet événement qui permet à tout le monde de pouvoir en tirer quelque chose.
Et en même temps, vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes rêves aussi, donc c'est quelque chose qui rapproche très très fort.
Oui, mais c'est intéressant, ce qui est vrai, c'est que moi j'ai toujours été surpris du peu de tennisman, et pas de peu d'autres sports, mais de peu de tennisman. Et c'est un sport quand même, et je reprends ce que tu as dit, mais où on est quand même dans une bulle depuis le début, et c'est pas uniquement parce que c'est un sport individuel, c'est aussi un sport plus professionnel qu'un certain nombre d'autres sports, très développé dans le monde entier, au niveau national et aussi international, avec, alors pour le top niveau, des moyens qui n'existent pas dans la plupart des sports présents ici. La plupart des sportifs, il faut savoir, ceux qui sont aux espoirs du sport, sont des sportifs amateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, même s'il y a une accélération et de financement plus important, notamment avant les Jeux...
Qui doivent travailler.
Tu as quand même encore beaucoup de sportifs, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez des champions du monde, vous avez des champions d'Europe qui sont aujourd'hui obligés d'aller travailler pour gagner leur vie, et qui ne gagnent pas leur vie de leur sport, qui pourrait et qui devrait être leur métier.
Concrètement, tiens, on peut donner des exemples de sports justement où c'est vraiment courant, Mickaël, ce que tu décris là.
Escrime,
l'aviron, kayak, en fait... Voilà. Les sports qui sont les moins médiatisés, notamment. C'est-à-dire que, une fois que tu sors du tennis, du basket, et encore, le basket, ceux qui sont en équipe de France et qui jouent dans des grands clubs, le hand, maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, le rugby, maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Il y a une vraie évolution là-dessus.
Et pour revenir sur le tennis, comment, justement, Mickaël, tu expliques qu'il n'y a pas eu beaucoup de tennisman aux étoiles du sport?
Il y a une raison quand même, c'est que c'est un sport où vous êtes quand même en compète quasiment 11 mois sur 12, et que c'est la période où vous faites votre foncier et vous partez
15 jours. Là, c'est une des premières années c'est un peu plus tôt. Ouais. En général, l'événement avait lieu début mi-décembre. Et effectivement, comme l'a dit Mickaël, on voyage 10 ou 11 mois sur 12. C'est la période où on sort de la période de vacances et on prépare la période foncière. 15 jours après, ils repartent en Australie. Donc ça tombait pas très bien. Mais en fait, quand on l'a pas vécu, on se dit... 3-4 jours, là, la team va me couper dans ma préparation. Mais en fait, même s'ils peuvent s'entraîner physiquement et pendant 3-4 jours, ils ne jouent pas au tennis, ils vont aller piocher des choses à droite et à gauche qui vont leur servir
Donc, le bénéfice de ce 3-4 jours, en fait, il peut être
bien sûr.
Et puis, ils ont très important.
Puis c'est adapté. Et puis on
peut t'entraîner. Il y a des temps pour faire, bien sûr.
Il y a plein de choses pour pouvoir parfaire sa condition physique pendant ce. Pendant ce temps-là.
J'ai une question toute bête qui me vient, qui m'amuse. Parce que je me dis, là, on parle d'un moment qu'on va faire fructifier. Est-ce que de temps en temps, il y a des invités qui ont envie un petit peu de se faire plaisir et qui passent.
Au bar
voilà. Genre.
Mais non, n'empêche pas l'autre.
Mais ouais, bien sûr.
3-4 jours en mode. Attends, moi, je suis là pour la détente.
Bien sûr. Et c'est hyper important.
Mais en fait, les moments où tu partages le plus, c'est les moments informels. C'est-à-dire que même s'il y a, tu vois, des keynotes qui sont faits, il y a des thèmes, des thématiques, des témoins, des consultants, où là on se nourrit. En réalité, c'est souvent, et c'est valable dans la vie, c'est souvent autour d'un verre que en fait tu refais le monde, que tu poses les questions que tu poserais pas devant tout le monde. C'est ça en fait. Et c'est à ces moments-là.
C'est pour ça qu'il y a ces moments aussi festifs.
Ah ben on est obligé. Nous, on n'aime pas trop avec Julien d'être obligé d'aller boire des verres et puis de faire la fête. C'est pas trop l'esprit de la maison. Donc on se force un petit peu.
On se met au diapason.
Et voilà, et on s'adapte. Et on
c'est plutôt, pour ça qu'il revient depuis 17 ans.
Voilà. Moi, je fais des efforts.
Je commence à comprendre. Mais c'est vrai que l'ambiance a l'air vraiment...
C'est une grande famille.
Et puis chaque année aussi, ce qui est incroyable, c'est qu'ils arrivent à se renouveler, à proposer des choses différentes.
Des nouveaux ateliers,
avec d'autres intervenants. Et il n'y a pas du tout la routine ou l'habitude qui s'installe. Et chaque année, il y a quelque chose de fort qui se passe.
Tu as un outil récent, par exemple, la respiration.
On parlait de l'apnéiste...
avec Alice Modolo.
Voilà, qui sera demain matin avec nous, ici, sur Twitch.
Qui est vice-championne du monde d'apnée, qui est descendue à 100 mètres.
100 mètres.
Donc, voilà. Et qui, en fait, pour des sportifs de haut niveau comme nous, ou anciens ou actuels, qui, quand même, gère le cardio, la respiration, récupération au tennis, tu fais un effort de quelques secondes, tu montes très haut,
et tu as
20 secondes
très
pour descendre, te concentrer, repartir. Tu as des sports comme ça où, en fait, on ne travaille pas du tout là-dessus. Et d'avoir, en servant de quelqu'un qui est devenu apnéiste sur le tard, vraiment, elle est dentiste, elle n'est pas du tout apnéiste. Un parcours assez inspirant et d'avoir un moment des gens qui vont te donner un outil qui va te permettre d'être plus performant dans ton truc, alors qu'on n'imagine pas une seconde
c'est
que
incroyable.
Ceux qui vont être capables de retenir l'aspiration pendant X minutes à 100 mètres vont pouvoir nous apporter ça. Et
donc,
c'est ça qui est assez
donc génial. Ça, c'est un exemple de ce que. Donc, ça, c'est nouveau. Et ça, quand vous étiez au top de votre carrière, ça, c'est des conseils que vous n'avez pas eu sur la respiration, par
exemple. C'est ce qui fait qu'on était champion en double. On a peut-être aussi été des grands champions en simple si on avait eu peut-être ces petits trucs-là.
Exactement. Il y a une question qui est sympa, parce que vous savez que sur Twitch, il y a une passion qui est le gaming, parce que c'est une plateforme à la base qui est très focus sur le jeu vidéo. Ouais. Moi, je découvre cet univers avec 35 ans de retard, je suis en train de devenir un gamer, je ne dors plus, c'est une catastrophe.
Sur quel jeu ?
En fait, j'invite tous les dimanches soirs un spécialiste d'un jeu,
d'accord.
Il me le fait découvrir, et parfois, je me prends un peu d'amour pour le jeu. Donc là, je joue en ce moment, ça n'a aucun sens. J'ai deux petits-enfants à la maison, en plus. Je joue à The Witcher 3, je joue à Rocket League. Je joue très mal, mais je joue. J'ai découvert Fall Guys et j'ai découvert la semaine dernière Valorant. Voilà. Et le problème, c'est que.
Je suis là, mais je suis arrêté à Mario Kart. Je te jure, là, je suis.
Moi aussi,
je
avant.
Un peu League of Legends, de par un club d'e-sport dans lequel je travaille un peu, j'interviens un peu. Mais oui, c'est un milieu et un univers
qui est devenu, différent. Par rapport à l'époque où moi j'ai joué aux jeux vidéo, fin des années 80, qui est devenu extrêmement séduisant parce que c'est un univers qui est riche, avec des jeux qui sont vraiment fascinants. Là, je me sens happé. Je reviens à ma question. Comment ces champions, demande Plop, voient l'e-sport, donc le gaming, quand il vient compétitif, les compétitions d'e-sport. Est-ce que vous voyez des similitudes, des différences? Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse un petit peu ou pas?
Moi, pour le coup, c'est ce qui m'a interpellé quand le club de Boulogne-Billancourt d'e-sport GameWard m'a sollicité. Je ne connaissais absolument rien. Et en fait, sur le jeu typique League of Legends, où ça se joue à 5 contre 5, là, il y a une vraie...
stratégie.
Exactement. Stratégie. Ils doivent avoir une communication parfaite entre eux. Une confiance entre les coéquipiers sur la stratégie qu'ils prennent, les actions qu'ils vont décider, comment, de quelle manière ils vont jouer, avec le rôle du coach. Donc là, j'ai retrouvé beaucoup de similitudes avec un mini-sport collectif.
Et d'ailleurs, ça s'est professionnalisé sur notamment l'aspect sportif. Parce qu'il y a tout ce débat, est-ce que c'est vraiment du sport ou e-sport ?
Pour moi, quand je suis entré dedans, on m'a toujours posé cette question. Et moi, je répondais... C'est une discipline.
Oui, c'est ça.
Mais ce qui est vrai, parce que regarde, si tu prends le tir,
le tir de précision,
les puristes diront, l'effort physique, parce que quand on parle de sport, on parle d'effort physique. Mais en fait, c'est effectivement une discipline. Être capable De jouer pendant des heures, de te concentrer, de travailler en équipe, de gérer le stress, de gérer la pression, de l'enchaînement des compétitions, comme un tireur, comme évidemment la dominante physique
n'est pas là,
qui n'est pas le cas en plus de tous les sports. Il y a des sports olympiques qui ne sont pas ceux où tu vas dépenser des énormément de calories ou monter haut en cardio. Donc ça existe. Et d'ailleurs, tu as un exemple. Dans une, je crois que c'est chez Vitality,
ouais.
Mathieu Péché, qui est un ancien champion, champion olympique
en kayak, en binôme.
Et bien pour le coup, lui aujourd'hui est un des coachs, notamment
de Vitality,
sur Vitality, de l'équipe, sur la prépa physique notamment, et de partager lui son expérience de sportif de très haut niveau pour justement permettre à des putains de gamers d'avoir en plus ce petit truc qui va faire que tu vas durer et que tu vas pouvoir travailler dans les meilleures conditions.
Et toi, Julien, quand tu as été contacté justement pour aller voir cette équipe dont tu nous parlais, c'était pour quel accompagnement justement ?
Pour essayer de...
Tu as parlé de stratégie notamment ?
Dans un premier temps, de structurer le club comme un club de sport. Okay. Il y avait les deux fondateurs, les deux CEO. Ils avaient recruté leur coach, leur directeur e-sportif. Ouais. Et donc moi, j'étais entre guillemets un peu le je faisais le lien entre justement le directeur e-sportif et les équipes, en lien avec le coach et avec les joueurs. Et donc, de temps en temps, je suis intervenu sur les premières années sur justement toutes ces notions de jouer ensemble, de se faire confiance, d'avoir une communication très précise et très claire, d'avoir des temps de débrief. Après, moi, je n'intervenais pas du tout sur est-ce que vous avez bien joué, pas bien joué. Mais après, on avait mis en place dans les locaux, on avait, on a toujours une salle de sport, donc une routine sportive pour les gamers, pour qu'ils aient une bonne hygiène de vie, pour qu'ils se sentent plus performants le soir sur les matchs de LFL. Et donc, j'avais vraiment... Enfin, c'est un peu moins opérationnel aujourd'hui parce que la discipline évolue et c'est... Et c'est compliqué pour certains clubs au niveau économique. Et c'est un vrai sujet, je pense, pour l'avenir du
Pour répondre à la question d'un viewer, oui, le sport est partout. Effectivement, ça joue au ping-pong. Il y a certains très fines, ça joue au ping-pong. Le sport, il est partout. On me dit que Vita, Vita, c'est une équipe... C'est une équipe sur plusieurs...
Sur Counter-Strike. Très fort.
Ils ont gagné une énorme compète là il y a quelques mois.
Et on me dit que Vita est justement accompagné par des sportifs de haut niveau et notamment
d'anciens. Par Mathieu Péché.
C'est ça.
Ils ont un grand joueur, je crois que c'est Apexco, c'est ça.
Là, c'est une question que je pose à tous les invités ce soir parce qu'on est vraiment dans cette perspective. On est à 8 mois des Jeux et c'est une question que se posent sans doute tous ceux qui sont sélectionnés ou qui vont essayer d'être sélectionnés. Le conseil, s'il n'y en avait qu'un que vous donneriez à un jeune sportif athlète qui va participer aux Jeux dans 8 mois, Michael, ce serait lequel ?
C'est de rien changer à ce qu'il faisait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il y a un gros enjeu pour les athlètes qu'on accompagne, olympiques et paralympiques, c'est qu'on a les Jeux à la maison. Les Jeux à la maison, c'est une énorme opportunité. Déjà en tant qu'athlète, la fierté de pouvoir jouer devant son public et d'avoir ce supporter de plus, parce que on sait, dans tous les sports, avoir un public, bien sûr, et ça on peut le mesurer, mais le pendant, c'est la pression. C'est la pression de vouloir bien faire, particulièrement bien faire. De toute façon, on parlait des tennismans à Roland-Garros, des tennismans français, c'est en tout cas un des enjeux. Et donc, le meilleur moyen, on ne peut pas faire abstraction qu'ils seront à la maison, mais c'est en fait de continuer à faire ce qu'on faisait très bien jusqu'à présent et de ne pas, surtout pas, se faire une montagne de ça. Donc nous, notre boulot, quand je dis nous, moi je suis chef de mission de l'équipe de France Paralympique, donc ça va être un de mes boulots, c'est de les protéger. C'est-à-dire que c'est nous, les anciens, on va s'exposer, on va aller au charbon, on va nous aller répondre aux attentes du gouvernement sur le nombre de médailles, des médias, du grand public.
Les protéger.
Les protéger pour qu'eux puissent se concentrer.
Rester dans leur routine en fait.
Ouais, c'est.
Pas leur routine, oui.
Oui, ce sont des routines,
c'est
ça, bien sûr. C'est
routine
vraiment
d'exception,
ça.
Mais
c'est
routine.
Vraiment ça.
Mais c'est marrant. Julien, mais c'est marrant parce que ce midi, on n'était pas ensemble et. Discussion informelle.
Non, j'ai compris, c'est plutôt le soir que vous retrouvez.
Voilà, exactement. Mais discussion informelle où on parlait de ça et je disais, mais dans la majorité des disciplines, les athlètes, tout au long de l'année, ils cherchent à être performants. Ils ne vont pas chercher à être performants uniquement aux Jeux Olympiques. Donc s'ils cherchent toute l'année à être performants, c'est-à-dire qu'ils font tout en amont tout le temps, donc ça rejoint ce que dit Mickaël, ne rien changer. Et moi, je rajouterais une chose. C'est qu'il n'oublie pas que c'est une chance incroyable.
Ça.
J'en ai les frissons. On a joué des Jeux Olympiques, et c'était exceptionnel. Ouais. Mais là, c'est à la maison. En fait, c'est une chance inouïe que ce soit à Paris. Et donc, qu'il n'oublie pas qu'ils ont cette chance-là. Et donc, justement, de rien changer, de tout faire pour saisir cette chance. Mais c'est avant tout une chance incroyable.
Mais de le voir comme une opportunité, vraiment. Parce que faire des jeux, effectivement, même quand tu as fait des tournois du Grand Chelem, même quand tu as battu Federer, parce que bon, c'est comme ça pour moi le plus grand fait d'armes, c'est que les jeux, c'est quelque chose quand même d'assez magique. Et même pour des sports très professionnels comme le tennis, il y a même maintenant des footballeurs qui pourtant font 1000 compétitions avec des millions et des centaines de millions de spectateurs et de téléspectateurs. Les jeux, c'est quand même quelque chose d'unique dans la réunion de tous les athlètes du monde entier à un moment donné. Et là, tu parlais des étoiles du sport. Au jeu, on dort dans les mêmes chambres. Enfin, après qu'on ait fini nos matchs. Non, mais on dort dans les mêmes chambres, la même literie, on mange la même chose, on joue selon les mêmes règles. D'un coup, c'est alors, on s'est pas préparé dans les mêmes conditions. Ouais. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens, évidemment, et on le voit encore aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais la réalité, c'est que c'est le seul moment.
On est sur le même terrain.
On est sur le même terrain et avec les mêmes attentes du grand public.
Là, on sent votre ferveur. Julien parlait. Rien que ça rappelle des souvenirs très très forts, mais est-ce qu'on est à 8 mois, c'est un peu tôt, est-ce que là, vous pensez que la ferveur populaire va être au rendez-vous? Parce que, alors pour le coup, il faut remonter très très loin, parce que les derniers Jeux Olympiques d'été en France, c'est un siècle, donc on n'a pas d'expérience récente en la matière. Alors on dit parfois que la France n'est pas un grand pays de pratique sportive, que les Français, on en parlait à la table ronde.
Ça tombe bien, ils ne vont pas pratiquer, là, on leur demande
de venir, c'est autre chose. Mais
est-ce que vous pensez que la ferveur populaire va être au rendez-vous? Et c'est important parce que justement, les athlètes vont le sentir, ça.
Ah oui. C'est déjà le cas.
C'est le cas déjà.
Non, mais c'est déjà le cas sur l'enjeu, ne serait-ce que de la billetterie olympique.
Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
Ça a été un carton.
C'est parti.
Ah, mais ça a été un carton. Ouais. Et donc, pour le coup, les stades aux Jeux Olympiques, ils vont
être pleins. Mais cette ferveur, j'en doute pas qu'elle sera là. Et elle doit être portée par tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir la maire de la ville qui va accueillir les Olympiques, qui envoie un message négatif en disant on ne sera pas prêt. Ce n'est pas possible.
C'est bon, parce qu'au moment où tu dis ça, il y a...
Ce n'est pas possible.
Attends, tu vas rire, parce qu'il y a quelqu'un dans le chat, à la seconde même, qui dit, c'est Carte Caléos, la ferveur populaire sera bloquée dans le métro.
Voilà.
Au moment...
Non mais moi je comprends.
Il faut que ça vienne de tout le monde.
Mobilisation générale.
Ça c'est vrai. Après, il faut être aussi objectif avec des réalités. C'est-à-dire qu'on sera prêt à accueillir le monde entier. C'est-à-dire qu'organiser des grands événements sportifs,
on sait faire.
On vient de le prouver avec la Coupe du Monde de rugby qui s'est passée au regard de tous les experts et surtout des consommateurs, du public, qui est venu du monde entier. Ça a été un succès fou, même si là, on est sur un événement encore plus grand. Donc, ça va très bien se passer. Après, on a aussi nos réalités d'être dans un pays et dans une ville qui est une ville incroyable, mais aussi qui a ses limites. Les Jeux Olympiques, c'est une chose. Mais les Jeux Paralympiques, on va accueillir pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques 350 000 spectateurs en situation de handicap avec des problèmes de mobilité. Donc la question des transports, c'est un vrai sujet. Et c'est pour ça qu'on travaille au quotidien avec tous les opérateurs. Donc c'est un vrai sujet. Maintenant, à mon sens, c'est pas ça qui va conditionner la réussite de ces Jeux et surtout l'engouement. Après, oui, globalement, c'est pas cette période de l'année où on va se déplacer plus facilement pour aller d'un endroit à l'autre, pour les gens qui bossent, pour les gens qui viendront en vacances. C'est un moment où vous allez avoir des millions de personnes dans la ville, au même endroit. Donc on sait que de toute façon, il y aura son lot de contraintes. Mais par contre, la ferveur, elle dépendra effectivement du fait qu'il y ait quand même cette unité-là. Et aussi
des résultats.
Et les résultats. Ça va être la clé. C'est-à-dire que les résultats dans les 9 mois qui viennent, qu'on va voir nos Français qui se qualifient, de quelle manière, la manière dont les médias. Vous, les médias, allez le relayer, ah bah valoriser.
À France Télévisions, on est à fond.
Et le job sera fait, mais tous les médias. Parce que, vous savez très bien, on ne va pas que sur France Télévisions, on ne consomme pas que du média aujourd'hui, et de moins en moins qu'à la télé traditionnelle. Ouais. Donc ce sont tous les médias,
la preuve.
Et donc, justement, d'aller les chercher là où ils sont, justement, tous ces spectateurs et ces téléspectateurs. Puis il y a un enjeu, c'est qu'on vient de lancer la billetterie paralympique il y a un mois, c'est que des Jeux réussis, avec un grand J, ce sont des Jeux olympiques et paralympiques réussis. Et donc aujourd'hui, l'objectif de vendre 2,8 millions de billets, donc on est quand même beaucoup moins en termes de... On a moins de sport, et puis on a un mouvement plus récent, mais c'est aussi ça. Et ça passe par de la pédagogie, ça passe par montrer de plus en plus d'images de performance. Et puis grâce à des événements comme ici, c'est aussi de montrer cette mixité d'une équipe de France unie, avec des champions olympiques, paralympiques, qui en fait, quand on est sur un terrain de jeu, il n'y a pas de différence. Ouais. On est comparé. C'est-à-dire que quand il faut aller se battre au ping-pong, au badminton, au basket,
on a la même envie.
C'est la même. Après, chacun vient avec ses différences, mais c'est tout.
Tu viens de me faire une passe décisive parce que tu parles de. Bravo. Bah oui, mais on sent les champions de double. C'est-à-dire que tu parles de l'importance pour les médias d'aller aussi sur les nouveaux supports pour faire vivre le sport auprès de publics qui ne sont pas forcément dans la télé, qui écoutent la radio, dans la presse écrite. Bon, il se trouve que moi, vous savez, je travaille à France Télévisions, donc je défends un peu ma maison. Donc là, j'en ai jamais parlé encore, mais France Télévisions, pendant les Jeux, va être très présent sur France 2, sur France 3, bien sûr, mais aussi sur France.tv, qui est la plateforme numérique. Et moi, je serai engagé pendant toute la durée des Jeux sur France.tv, voilà, une grosse partie de la journée, pour faire vivre notamment les nouveaux sports, l'escalade, le hip-hop,
le breaking, le surf,
voilà.
Depuis Tahiti.
Non, moi je serais dans au, non,
ça c'est nous. Il y avait deux places.
Je serais dans le siège au siège de France Télévisions. On va faire un studio dans l'accueil.
Ah ouais. Endroit sympa.
Donc on sera aussi sur France.tv.
Voilà,
et on va se partager comme ça les épreuves. Mais tu as raison, c'est
il y a une mobilisation sans précédent des médias, quels qu'ils soient, que ce soit sur la couverture des sports olympiques et paralympiques. Il y aura une explosion du traitement médiatique et c'est tant mieux. Après,
mais ça, il n'y a pas de doute là-dessus.
Aujourd'hui,
en tout cas, vous ne semblez pas craindre tous les deux qu'il n'y ait pas cette ferveur populaire. Quoi.
Ça ne dépendra pas du sport, en fait. L'enjeu, ce n'est pas le sport. On ne sait pas ce qui peut se passer dans le monde dans les 9 mois qui viennent, ce qui peut se passer en France. On n'est jamais à l'abri d'une crise sociale, d'une crise économique, d'une crise politique. Ça, c'est la vie, mais ça a été le cas depuis la nuit des temps. Il y a des jeux qui ont été perturbés. Et en même temps,
les jeux aussi, c'est un moment où il y aura une trêve olympique.
Ouais,
qui n'a pas toujours été parfaitement respectée, mais qu'on pourrait aussi souhaiter. Et c'est hyper important. Quoi.
Mais c'est quand même assez génial, c'est qu'on vit dans un monde quand même qui n'est pas très joyeux, notamment en ce moment. Bon, en même temps, dans toutes les époques, il y a eu des tragédies. C'est quand même assez sympa de se dire que même si c'est très fragile et que c'est un peu naïf, de se dire que pendant les Jeux...
Il y a une tentative.
Il y a en tout cas une volonté commune de tous les pays du monde qui participent pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de se dire, OK, on sait bien qu'on va se refoutre sur la gueule, on sait bien que ça ne réglera pas les conflits. Par contre, on a quand même la volonté, à ce moment-là, de se concentrer sur quelque chose qui nous réunit. Et il n'y a pas grand chose
d'autre que le sport.
C'est le sport aujourd'hui. Ouais. C'est le seul, je crois, outil. C'est pour ça que moi, je pense que c'est un outil politique extrêmement puissant, le sport. C'est un des rares outils politiques qui, aujourd'hui, peut réunir le monde dans sa globalité, et pas uniquement localement, mais vraiment. Donc, en tout cas, si nous, on s'y implique, c'est parce qu'on y croit au-delà des émotions que le sport procure. Donc, c'est à ça que ça
doit servir. Je fais ce vœu, du coup, avec vous, qu'effectivement, là, on est dans une période qui est très difficile.
Anxiogène, un petit peu.
La guerre en Ukraine se poursuit, il y a le conflit au Proche-Orient, on est dans une séquence qui est très dure pour beaucoup de gens. Si au moins cette trêve olympique pouvait être respectée, ce serait déjà un petit quelque chose.
Ce serait déjà, je pense, une des plus grandes réussites des Jeux Olympiques de Paris.
Et puis il faut accepter que c'est dans 9 mois ça se construit, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun jeu où la liesse populaire s'est lancée un an à l'avance. Ça se construit. Et il y aura plein de rendez-vous. Et puis, ça va augmenter aussi pendant les Jeux.
Ouais.
C'est que si dès le premier jour, il y a une médaille, une médaille française, ça change
tout.
Ça
va monter. Ça va...
On a bien vu sur le rugby.
Bien sûr.
Dès que la France commence à gagner, dès qu'il y a une compétition, ça nous embarque.
Ça change tout pour le public, pour les Français et pour les athlètes.
Bien sûr.
C'est ça qui est incroyable.
Pour avoir, pareil, en discuter ici, je ne sais plus quel judokate à Tokyo. Elle concourait plutôt en fin de programme du judo.
Ouais.
Et c'était peut-être, je me trompe, c'était peut-être Rio au lieu de Tokyo. Et les résultats des Français n'étaient pas super au début, dans le judo. Et ben, elle nous a expliqué que ça avait mis une dynamique où en fait elle voyait ses compatriotes qui rentraient au village olympique, ben pas avec les objectifs réalisés, avec de la déception. Et elle avait encore sa compétition à faire et que c'était dur de faire abstraction de ça et de rester concentré.
Ouais.
Ben, là, à la grande échelle, ça peut faire effet boule de neige. Si dans les 2-3 premiers jours, il y a des bons résultats, le soir, ça va rentrer au village olympique. Celui qui a sa compète le lendemain, il va dire, lui, il a eu la médaille, mais moi, demain, je vais l'avoir la même médaille.
Ça te transcende.
Et là, il peut y avoir un vrai effet à la fois de jouer à la maison et à la fois d'embellie collective, d'élan collectif, avec des résultats positifs dès le début qui peuvent entraîner tout le reste.
Vous nous donnez envie d'y être, mais il faudra attendre 8 mois.
Et puis là, on parle du sport. En réalité, pour bosser dessus, on fait partie de la commission des athlètes de Paris 2024, donc on travaille au quotidien avec les équipes pour justement s'assurer que ce soit des jeux impact, des jeux forts, réussis, et pas uniquement d'un point de vue sportif, aussi en termes d'héritage. La réalité, c'est que ça va être fou. C'est-à-dire qu'on a quand même peu d'occasions de vivre, en tout cas, à une telle échelle, ce que le sport peut procurer. Ça va être une fête. Ça va être une fête qu'on vit qu'une fois. Une vie, vraiment. C'est-à-dire que les jeux et les jeux à la maison, c'est quelque chose, ou même pour des gens qui n'aiment pas le sport. Moi, j'ai eu des gens dans mon entourage qui venaient parce que c'était moi, m'encourager aux Jeux Paralympiques. Je les ai vus dans des états où j'aurais jamais pu croire une seconde que ça puisse les rendre fous à ce point-là. Et donc, effectivement, vous allez voir la ville et le pays va être aux couleurs des Jeux. Et en fait, vous allez avoir envie de... Mais comme on l'a vu pendant le rugby. Quand vous êtes, on parlait du métro.
Sauf qu'on aurait voulu que ça dure plus longtemps.
Ah bah ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Non, mais quand vous voyez les publics, les publics qui sont ensemble, justement, on parlait du métro. Alors, le public rugby est un public très particulier. C'est un des meilleurs pour moi, public au monde. Mm-hmm. Mais d'avoir des gens qui ont juste envie de se retrouver au même endroit, ça va être fou.
Ça va être ça. Et quand Michael dit... des personnes, des proches de lui qui sont venus l'encourager parce que ce sont les Jeux Olympiques et les émotions que procurent les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, parce qu'on a tous des souvenirs d'enfance ou des souvenirs qu'on aime le sport ou on n'aime pas à télé, d'exploits de nos Français. Et puis, on a la chance d'avoir gagné une médaille, nous. Et l'objet.
Moi, j'en ai gagné 4, hein, perso.
Ouais, pardon. Mais l'objet, cet objet-là, pour les non-initiés, moi, elle est chez moi cachée, mais quand il y a des gens qui ne connaissent pas grand-chose au sport... et qui me disent, mais toi, tu as gagné une médaille olympique, est-ce qu'il y a de leur montrer quand ils la prennent dans la main, ils me disent, je peux la mettre autour du cou, bien sûr, je m'en fous, vas-y.
Et les gars, le gars se part au courant.
Bah, dans les écoles, je fais pas chaque fois. Tu viens les enfants,
mais
tu donnes,
fait,
et là, tu
mais il y a un rapport pour les non-sportifs, on va dire, c'est parce que quelque chose... avec cet objet-là.
Mais je pense que tout le monde a un souvenir de jeu. Tu parlais avec les Français, mais pas que les Français.
Oui, pas que les Français.
Moi, mon premier souvenir, j'ai 11 ans. C'est 92 Barcelone, c'est la Dream Team NBA. Ouais. Mais c'est un truc, en fait, je suis pris. C'est-à-dire que
les journées
sont continues quand le match va avoir lieu, quand le prochain. Et en fait, c'est quelque chose qui te porte. Et c'est, je crois, en tout cas aujourd'hui, un des rendez-vous universels incontournables. Et encore une fois, il n'y en a pas d'autres. En vrai, il n'y en a pas d'autres à ce point-là.
J'ai une question indiscrète pour finir, parce que nous vous avez quand même laissé entendre que l'étoile du sport, c'était un peu de travail, de réflexion, puis un petit peu de moments festifs.
Oui, vraiment, la marge.
Y a le programme de la soirée, il y a des petits trucs. On est vendredi soir, il y a des trucs prévus.
Non, bah là, comme tous les soirs, il va y avoir des surprises. Il y a un artiste qui va se produire sur scène. Donc hier, c'était Jérémy Frérot.
Ouais.
Ce soir, on ne sait pas.
Okay.
Voilà. Donc il va y avoir un artiste qui va se produire sur scène. Et ensuite, DJ du Comed.
Ah. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ici, c'est open bar. Et ça, c'est une valeur sûre. C'est qu'en vrai, vous nous mettez n'importe quel artiste, on pensera qu'il sera super. Parce qu'à un moment, on est dans un état où finalement, tout passe.
Joe, on va accélérer ce stream.
Évidemment qu'on va se retrouver
après. Je vous mets l'air de côté.
Et demain, on a de nouveau un stream. Demain, 9h midi ici, plus sur grand public, c'est-à-dire comment le sport de haut niveau peut aussi permettre de donner des conseils en termes d'hygiène de vie, de qualité de vie au quotidien.
Ah, c'est bien de ne pas nous inviter
c'est
pour ça.
Pas mal, tu vois. Et du coup, ce soir, on va devoir être assez sage.
Ouais.
Sinon, le stream, il va être bizarre. Quoi. Il va être un peu,
en même temps, on peut montrer aussi l'opposé.
L'inverse.
C'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire. Pas que vous soyez surpris dans le
sport de haut niveau.
Un grand merci à tous les deux.
Merci.
C'était super plaisir. De vous avoir. Merci
super.
De m'avoir donné
merci
le
pour
temps.
L'invitation.
Merci.
À très bientôt.
Ouais, avec
ciao.
Plaisir.
À bientôt.
Deuxième stream ici, premier. Voilà.
Exactement.
Il y en aura d'autres. Ah oui, on est vendredi soir. Mais Joe, c'est bon. Il faut. On a des grands champions aussi qui nous ont dit que la fête c'était important. On n'est pas vendredi soir. Dans quel jour on est, Monsieur Corgouré? Oh putain, on est lundi. Ah putain la vache, j'ai aucune notion du temps en fait. On est lundi. C'est pour ça que les gens dans le chat me disaient, se moquaient. Ok, on est lundi. Ah mais c'est cette ambiance de fête en fait, j'ai l'impression que du coup... Ok. Ouais mais t'es d'accord, Joe, il y a une scène de concert. Il y a plein de gens qui s'amusent et tout. T'es d'accord que c'est pas une ambiance de lundi? Ouais, c'est pour ça. Alors, les tables rondes s'enchaînent, c'est parti. Voilà. Deux nouveaux invités qui nous rejoignent. Si je dis pas de bêtises, on a Florent Dasque, où est-il? Ah Florent, te voilà. Et Yvan Launay, que j'ai croisé tout à l'heure. Joe, comment on s'installe? Comme ça? Formidable. Installez-vous. Comment ça va?
Merci, ça va très bien.
Ça
et
va,
toi?
Merci.
Ah, mais tenue.
Bah, tant qu'à faire.
Tenue. Hein voilà. Ah, oui. Alors, c'est drôle parce qu'on a fait un tout petit point quand même, tout petit. À l'époque, alors les plus jeunes ne connaissent pas ça parce que parfois sur Twitch, on a un public qui est suffisamment jeune pour ne pas avoir connu le service militaire. D'ailleurs,
je ne l'ai pas connu.
Tu l'as pas connu. Le jour où tu n'as pas fait ton service militaire. Trop jeune. J'ai dit dans la classe et je l'ai fait dans la marine nationale.
D'accord.
Voilà.
Oui, j'ignorais.
Matelot deuxième classe. C'est pas, voilà.
Bien évolué depuis alors.
La plupart des matelots qui avaient fait correctement leur service finissaient première classe et moi non. Ah. Pourtant je m'étais plutôt appliqué mais je sais pas, il a manqué un petit quelque chose.
Ouais, je pense qu'il faut pas en tenir rigueur.
Je regarde un bon souvenir. Oui. Je regarde un très bon souvenir. Merci à tous les deux d'être avec nous. Je vous présente. Alors c'est intéressant parce qu'on est aux étoiles du sport. On est avec plein de sportifs de haut niveau. qui nous ont beaucoup fait rêver. On était avec Marie-Josée Perret qui était à votre place tout à l'heure. Il y avait Alain Bernard qui était à ma gauche tout à l'heure. Sarah, l'immense championne de boxe. Et vous, vous intéressez au sport, mais vous n'êtes pas, à proprement parler, des champions de sport.
Non,
on est d'accord.
Normalement, à tous les deux, on ne devrait pas ramener beaucoup de médailles à la
fin. C'est clair.
Malheureusement.
Qui sait ? Qui sait ? Donc, je vous présente, mais on est dans deux univers très, très différents. Florent Dasque, auteur, compositeur, interprète, un des fondateurs du célèbre groupe Boulevard Désert, disque d'or, disque de platine. Ce n'est pas des médailles, mais...
C'est nos médailles à nous, quelque part.
Et un habitué des Étoiles du Sport.
Ouais.
C'est pas la première édition.
C'est pas la première édition. On était venu il y a une dizaine d'années,
ouais,
en tant que groupe, comme il y a un concert ce soir d'ailleurs.
Ouais.
Et puis au fil des discussions, je crois que l'équipe des Étoiles du Sport a senti mon amour pour le sport.
Ouais.
Et puis on a trouvé surtout énormément de passerelles, puisqu'aujourd'hui, en discutant avec des sportifs professionnels, un quotidien finalement d'un sportif professionnel n'est pas si éloigné
de celui d'un artiste.
Alors,
on
pourrait le croire comme ça, mais en réalité, juste pour faire très bref, l'éloignement des familles.
Attends, on va en parler.
On va en parler.
Mais c'est intéressant parce que justement,
il y a beaucoup de liens.
Ah, très intéressant. Et puis peut-être sportif toi-même.
Sportif amateur.
Tennis. Attends, j'ai pris des informations. Tennis.
Pas mal de choses.
Padel.
Padel.
Ouais. On m'a dit rugby aussi.
Rugby.
Pratique.
Sport de montagne.
Pratique.
Ouais, ouais. Alors plus maintenant. Hein.
Okay.
Depuis que la musique fonctionnait pas trop mal, j'ai arrêté.
Donc grand sportif. et on va tirer ces fils justement entre le monde de la musique, de l'art,
ouais,
et du sport pour trouver ces liens. Yvan Launay, comme je le dis souvent, le journalisme est une activité humaine et faillible. Donc s'il y a des infos qui sont erronées, fausses ou approximatives, on corrige. Hein, on ne me laisse pas dire des bêtises, bien sûr.
Bien sûr.
Yvan, pilote de chasse.
Ça, c'est correct.
Dans l'aéronautique navale.
C'est aussi correct.
Sur Rafale.
C'est marine, oui, correct.
Voilà,
oui.
Voilà. Conférencier aussi.
Oui.
Alors, est-ce que mes informations sont à jour ? Commandant en seconde de la base aéronautique navale de Landivisiau.
C'est correct.
Voilà, nous sommes en Bretagne.
C'est ça.
Voilà. Ancien de l'école navale.
Oui.
Et de l'école de l'air et de l'espace.
Alors, effectivement, on passe par une phase de formation commun avec l'armée de l'air et de l'espace, à Saint-Mont-de-Provence en l'occurrence, avant de rejoindre la formation aux États-Unis, puisque je suis donc pilote de chasse embarqué sur le porte-avions Charles de Gaulle.
Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a une partie
donc,
de la formation qui
se fait aux États-Unis.
C'est Top Gun, quoi.
C'est ça, voilà.
C'est un pour.
On peut dire ça.
C'est Tom Cruise.
Ouais, voilà.
Alors, moi, je connais un peu cet univers-là, pas parce que j'ai fait l'école navale ou l'école de l'air et de l'espace, mais parce que La Question pour un Champion, qui est le programme que je présente sur France 3, il y a une spéciale grande école chaque année. Et on a, la dernière édition, il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai joué avec des élèves de l'école de l'air et de l'espace.
D'accord.
Et ils étaient très forts.
Ouais.
Et très sympathiques.
Ça m'étonne pas.
Et bien, même question qu'on se pose, c'est quel rapport entre votre domaine d'activité, on se tutoie ?
Allez.
Ton domaine d'activité,
oui,
et le sport. Et après, on viendra à l'art et à la musique.
Bah, je pense qu'on peut tirer plein de... Et c'est d'ailleurs pour ça que finalement j'atterris ici aux Étoiles du Sport,
ouais,
même si ça peut paraître un peu hasardeux en première approche. Mais je pense que si je devais retenir trois critères qui nous rassemblent, le premier, ça serait le drapeau. Puisque au-delà de la performance individuelle que va essayer d'accomplir l'athlète, en fait, il se range derrière une direction technique nationale et donc derrière un drapeau. Et donc à travers ça, il va représenter non seulement les valeurs de la France, mais aussi un savoir-faire. Et finalement, pour l'armée, c'est pas tellement différent. Donc ça, je pense que c'est le premier lien qu'on peut faire entre nos deux univers. Le deuxième, je pense, qui nous caractérise aussi, c'est la notion d'engagement. C'est-à-dire que aujourd'hui, on se donne à fond dans ces activités-là, que ce soit le sport ou l'armée, et sans aucune certitude de résultat derrière, en fait. On se donne le meilleur pour se préparer au pire dans notre cas et en fait au plus dur dans le cas des sportifs. Donc c'est une notion d'engagement avec toutes les valeurs de résilience qui vont avec. Tu parlais tout à l'heure de l'éloignement des familles, par exemple, ça c'est un sujet qu'on peut
aussi
développer parce qu'il m'est arrivé de partir plus de 9 mois en mer sur des conflits et des théâtres éloignés. Et puis le dernier point qui à mon sens, pour le coup là, fait complètement sens avec le sport, c'est l'esprit d'équipe et l'esprit d'équipage pour les marins que nous sommes, puisqu'on est un équipage qui part à la mer. Et donc, toutes les valeurs de solidarité qui vont avec ça. Donc, je pense
même qu'on est dans un sport individuel.
Alors, typiquement, c'est là où c'est rigolo. Je fais par essence un sport individuel, comme Alain Bernard, par exemple, que je connais très bien, parce que moi aussi, je suis un ancien nageur. On se connaît très bien. Et donc, je fais un sport individuel dans le sens où je suis tout seul dans mon cockpit. Pour autant, je suis interdépendant de tous mes coéquipiers, mais aussi du porte-avions, et de tous ces acteurs qui vont mettre en œuvre la centrale nucléaire, les installations aviation. Donc c'est vraiment un sport d'équipe, même si on, entre guillemets, on ne voit que la partie émergée de l'iceberg, que sont les pilotes, parce que globalement, la vocation d'un porte-avions, c'est de catapulter et de ramasser des avions. Voilà.
Donc, Yvan, vous avez évoqué trois points communs entre le monde militaire et le monde du sport de haut niveau, mais je pensais qu'il y en a un autre que vous aviez évoqué qui était le risque. La prise de risque. Mmh, parce que je sais que demain, je crois que vous êtes amené sur un atelier.
Oui.
Sur.
Pousser les limites.
Voilà, explorer ses limites. Mmh. Alors, en plus, il y a un spécialiste qui est l'ultra trailer François Dell, qui est juste un ovni. On s'affirme, d'accord. C'est incroyable. Et l'apnéiste Alice Modolo, c'est drôle, dont tous nos invités nous ont parlé d'ailleurs, avec cette réflexion qui commence sur l'importance du souffle, c'est extrêmement intéressant. Et alors, parce que la notion de risque. Alors évidemment, quand on est pilote sur un avion de chasse, qu'on doit, je suppose, apponter. C'est apponter le terme.
Mais c'est correct.
Mes souvenirs sont un peu anciens de travailler à col bleu. J'ai écrit beaucoup sur la flotte, donc voilà. D'apponter sur un porte-avions en pleine nuit, la notion de risque, elle est là.
Oui.
Dans le sport de haut niveau aussi.
Oui. Oui, on prend effectivement des risques, mais d'ailleurs, si on veut gagner, on est obligé de d'accepter ce risque-là et de tolérer de. Malgré tout, de se fixer un cadre et d'évoluer dans ce cadre aux extrêmes limites de ce qu'on peut tolérer en termes d'acceptabilité de ce même risque. En fait. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est un autre point commun, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais j'ai cité les trois premiers qui me venaient spontanément à l'esprit. Mais nous, la difficulté, la différence, c'est que le risque, il peut prendre des proportions très extrêmes, puisqu'il y a l'enjeu de la vie humaine qui vient immédiatement à l'esprit quand on parle de... faire apponter un avion de 15 tonnes à 250 km/h sur une plateforme nucléaire, on va dire que c'est quand même dit comme ça, c'est pas forcément spontanément l'idée la plus
raisonnable.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Pourtant, on a mis avec l'expérience, parce que l'aéronautique navale a maintenant plus de 100 ans, au fil des erreurs aussi qu'on a commises, on a appris à maîtriser et à mettre en place un certain nombre de barrières, de dispositifs où on est en maîtrise totale et on sait se fixer aussi des limites. Mais c'est vrai que là, pour le coup, on se rapproche aussi de ce que font sans doute les sportifs de haut niveau pour aller chercher une performance. Et on est obligé, on est intrinsèquement obligé de lier la performance avec l'acceptabilité du risque. C'est tout à fait vrai.
Donc, des liens qui ne sont pas tout évidents au premier abord et en fait qu'on trouve entre votre domaine et puis le sport de haut niveau. Florent, donc, qui découvre l'étoile du sport en te produisant il y a quelques années sur la scène. Et puis, comme tu es très sportif, il y a des liens qui se créent. Et alors, tu as commencé notre échange en disant entre la vie d'artiste et la vie de sportif de haut niveau, il y a des similitudes auxquelles on ne pense pas forcément.
Non, puis en fait, ça devient assez évident quand je vais les évoquer.
Ouais.
Je parlais, Yvan le rappelait, la vie de famille par exemple, mais il y a aussi aujourd'hui la pression des médias. Mm. Aujourd'hui, les sportifs sont entourés de médias, nous entourés de médias. Eux, ils ont la peur de la blessure, mais nous, on pourrait évoquer la peur de la page blanche finalement.
Ouais.
Ou la peur de la perte de voix. Qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? Il y a aussi une petite notion une complète notion même de carrière éphémère. C'est ce qui se passe pour nous, c'est exceptionnel. Ce qui se passe pour un joueur sélectionné, c'est exceptionnel. Mais on sait très bien que un an après, ça peut aussi disparaître. Et finalement, les discussions que j'ai avec mes copains qui font du sport de haut niveau aujourd'hui,
elles sont semblables
en réalité. Elles sont semblables. Je vois pas assez ma copine. Mes parents me manquent. L'endroit où je suis né me manque. La pression des médias. J'ai dit telle chose à la télé. Aujourd'hui, je me prends un flow pas possible sur les réseaux sociaux. Comment je m'en sors? Comment je remonte la pente, etc. Et c'est vraiment des problématiques en fait qui sont semblables. Alors évidemment, nous on réalise pas une performance avec un chrono ou un classement, mais il y a une performance quand même artistique tous les soirs sur scène.
Mais l'aspect réseaux sociaux, j'y avais pas pensé parce que c'est vrai que bon, en tant que
pourtant on en parle beaucoup.
Mais oui. Mais alors, en tant que comme de médias, je vois bien. Mais les sportifs de haut niveau aussi sont confrontés à cette difficulté, sinon cette souffrance, il vous en parle?
Complètement. Je pense qu'il y a même un conseil qui est là sur cette session des étoiles.
Sur ce sujet.
Quand on voit le nombre de footballeurs, pour citer eux, mais qui se font accrocher après un tweet un peu déplacé, la manière de communiquer, la manière de répondre aux journalistes.
Blague qui n'a pas été comprise.
Non, mais c'est vrai. Et puis ça a des répercussions hyper importantes quand on voit la communauté que peuvent drainer ce genre de sportifs. C'est vrai que le moindre mot déplacé... peut avoir des conséquences terribles. Donc c'est quelque chose qu'il faut... Un nouveau paramètre, en tout cas, j'ai l'impression pour eux, qu'il faut apprendre à maîtriser. Je ne pense pas que, par exemple, Alain avait ce problème quand lui était en carrière, au moins que ça, avec tout le respect que j'ai pour Alain.
Et un paramètre qui va prendre du temps, de l'énergie, qui va fatiguer, qui va parfois stresser aussi. Ah, j'avais pas pensé à cet aspect, effectivement. Je fais un pas de côté, mais est-ce que l'armée est confrontée aux mêmes soucis de réseaux sociaux qui deviennent une donnée dans une équation nouvelle? On parle de l'armée comme de la grande muette souvent, justement, voilà, qui a une communication qui est très maîtrisée.
Tu m'ôtes les mots de la bouche, mais effectivement, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la grande muette, donc elle se tait par définition.
Ouais.
Pour autant, nous, on a besoin de communiquer. Déjà pour aussi faire passer un certain nombre de messages pour faire connaître aussi notre crédibilité. Finalement, nous, la meilleure façon de gagner la guerre, c'est de la gagner avant qu'elle se produise, en faisant montre de notre crédibilité au quotidien, notamment dans le cadre de la dissuasion, ouais, qui peut aussi être aéroportée, que ce soit dans l'armée de l'air, mais aussi à partir du porte-avions. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques.
Qui n'est pas que nucléaire, hein, dissuasion,
que
c'est
nucléaire,
aussi...
au sens général du terme, c'est-à-dire dissuader l'ennemi de venir attaquer nos états, nos intérêts vitaux. Mais sur un deuxième volet qui est aussi nécessaire, c'est le recrutement. Aujourd'hui, je parlais tout à l'heure du service militaire qui était un lien nation... armée-nation qui était assez évident. Aujourd'hui, ce lien, on n'a plus depuis longtemps. On a des forts besoins en recrutement aussi. Et donc, il faut qu'on fasse connaître nos différents métiers, puisqu'on on peut valoriser nos métiers embarqués à terre ou dans les airs de différentes manières. Et donc là, on a besoin de communiquer aussi.
On voit passer d'ailleurs régulièrement des campagnes de communication sur les réseaux, sur une nouvelle plateforme pour aller vers ce public qui est le public que vous cherchez à séduire.
Exactement.
À séduire.
Oui.
Et si tu me permets, juste,
bien sûr,
je rajoute une petite chose quand on parlait des points communs. Parce que
sur Twitch, on peut tous se permettre. Voilà. Fait,
c'était par politesse que je voulais te...
Mais c'est gentil.
un point commun, et d'ailleurs essentiel, et d'ailleurs qui nous avait réunis au départ avec Seb, c'était de se dire, on s'était rendu compte en réalité, et d'ailleurs qui pourrait être en parallèle aussi avec ce que fait Yvan, c'est de dire qu'aujourd'hui, un artiste qui rentre sur scène, quand on rentre dans un zénith qui est noir, on avance sur le proscénium, il y a le micro qui nous attend, on sait que l'éclairagiste va nous récupérer la lumière, et on se dit, quelles émotions sont en moi à ce moment-là, et qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour quand je vais prendre ma guitare, je vais pas me dire mince, je les ai ratés, je vais bégayer sur le premier mot, et tout le zénith va se dire c'est pas possible, quelle erreur. Et finalement, en fait,
j'ai payé ma place.
Ce qu'on ressent en ce moment-là, c'est la même chose que quelqu'un qui va prendre un shoot en basket, quelqu'un qui va tirer un penalty, quelqu'un qui va faire une manœuvre difficile.
Qui est sur une ligne de départ. Marie-José Pérec parlait de l'état d'esprit qu'elle traversait. Des 1000 pensées qui se bousculaient dans les dernières secondes, juste au moment où elle se place, dans les quelques mètres où elle doit passer d'un état d'esprit parfois de profond doute à un état d'esprit de totale sérénité, confiance. Et donc, ce moment où tu avances vers la scène, il ressemble vachement à ça.
Ces moments peuvent être, parce que tout le monde parle de quelles sont nos routines, quels sont les cadres, quelles sont les règles qu'on se refixe dans ces derniers moments. On ne peut pas avoir de pensées parasites, ou pas trop, voire pas du tout, ou en tout cas les apprivoiser le mieux possible. Et quand on discute avec des sportifs, ou ces gens qui gèrent ces moments de grande tension, on se rend compte que finalement, on a beaucoup de choses à se dire. Et ces sujets qui paraissent transversaux au départ sont en réalité... les problématiques sont quasi semblables.
Ouais. Et d'ailleurs, dans vos échanges à tous les deux, parce que l'intérêt ici, c'est de se croiser, c'est de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés ailleurs, dans d'autres disciplines, et d'échanger, de parler de ses propres expériences et parfois de se donner des conseils, ou tout simplement trouver une solution dans l'histoire de l'autre. Vous avez des exemples respectifs justement d'échanges avec des sportifs, sans forcément les nommer, où votre expérience de pilote, d'artiste, de chanteur, à un moment, rentre en résonance avec ce que le sportif cherche, en se disant « Ah oui ?» Ça m'intéresse, parce que justement, moi, je me pose une question, là, je cherche une solution, et ton expérience est un début de réponse.
Alors, moi, j'en ai des nombreuses, mais je continue sur le chemin dans lequel j'étais, c'était de se dire, à l'approche d'un moment très important, à l'approche d'un chrono, d'une échéance hyper importante, ou alors pour un artiste, de la mise en lumière et qu'est-ce qui va se passer après. À comment on apprivoise le mieux possible, on va dire, tous les paramètres qu'on contrôle pas. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment commun entre les deux. Alors, je pense que moi, en ayant raconté mon histoire, en ayant entendu aussi le témoignage de certains sportifs, il y a notamment cette notion de plaisir, en tout cas, qui a été largement partagée avec les sportifs. Tout à l'heure, je discute. Tu l'as eu à Sarah ici ?
Oui, elle était juste.
Sarah parle beaucoup de plaisir quand elle combattait, et nous aussi. Moi, je sais, par exemple, quand je monte sur scène, pour faire très simple, c'est plus le moment 10 minutes avant de répéter mes gammes. C'est pas ça qui va faire que je vais mieux jouer en montant.
Oui.
Moi, ce dont j'ai besoin avant de monter sur scène, c'est me sentir bien, me sentir chanceux d'être là, faire une accolade avec mes techniciens, savoir qu'on est toute une équipe. Pour le coup, je le rejoins aussi, ce travail d'équipe, se sentir porté, se sentir bien, savoir qu'on a des sas de sécurité autour de nous et pas se dire que c'est 5 minutes avant qu'on va régler les derniers détails. Et pour elle, c'est aussi ça qui caractérisait en fait son état de zone, comme elle dit un peu, où elle se sentait bien, c'est ressentir ce plaisir-là. Ça aussi, c'est un trait commun qu'il y a entre nous et eux.
Parce que un grand événement, un grand rendez-vous comme des mondiaux, comme des championnats d'Europe, des JO, on est dans un 8 mois. Et est-ce que vous pensez que la plupart des sportifs arrivent à trouver ce jour particulier, qui est un jour très particulier, dans le plaisir d'être là, un moteur, où il y a tellement d'enjeux, de concentration, voire de stress, que, je sais pas, comme Marie-Josée Pérec tout à l'heure me parlait de toutes ces centaines de pensées qui traversaient sa tête avant une course, j'ai l'impression qu'elle n'était pas tellement dans le plaisir, plutôt dans la recherche d'un état d'esprit qui va lui permettre de franchir la ligne d'arrivée la première, quoi. Après, chacun est différent.
Je pense que chacun est différent, mais j'ai envie de répondre avec amusement. Est-ce que ce n'est pas justement celui qui va réussir à trouver ce relâchement qui sera sur la marche numéro 1 et peut-être l'autre le deuxième, j'en sais rien.
Ouais, c'est alors.
Ils ont même question dans tes échanges avec les athlètes. Est-ce que parfois, dans ton expérience, qui est d'une autre nature, des sportifs peuvent se trouver matière à inspiration pour.
Oui, en fait, on va sur tous ces champs-là de l'exigence aussi, notamment jusqu'à où on pousse le curseur sur un certain nombre de critères. Qu'est-ce qui. Dans tous les cas, nos deux mondes ne sont pas des sciences exactes. C'est pas parce qu'on s'investit tant de temps que derrière on va atteindre tel résultat, qui est d'ailleurs complètement différent de la performance en fait. Donc sur ces critères-là, je pense qu'on a matière à discuter aussi des heures. Donc il y a cet aspect-là de non-linéarité, si je peux le formuler comme ça, entre le temps que je passe à une activité pour atteindre un résultat,
et
puis le résultat qui va en découler. Donc l'incertitude qui va avec. Donc une fois de plus, on revient sur cette notion d'incertitude qui est une certitude dans la façon d'appréhender notre métier.
Mais qui est aussi une belle aventure.
Mais qui du coup en fait tout le sel de l'aventure. Ouais. Ça c'est un aspect sur lequel on revient souvent dans les échanges, en tout cas en filigrane. Et puis cette notion, je pense aussi, d'engagement qui revient aussi régulièrement dans ces échanges-là, c'est-à-dire finalement... On poursuit un rêve et on se rend compte que j'ai eu les questions là, ce soir avec les plus jeunes là. Ouais. Comment on retrouve cette notion de plaisir que tu évoquais tout à l'heure, parce qu'on peut la perdre à un certain moment clé, surtout quand on a réussi un certain nombre d'événements. On doit se remettre en question parce que bon, je sais pas, je prends un athlète qui a 24 ans qui a tout réussi, derrière il a encore du potentiel, est-ce qu'il en met une couche. Nous, la question, on se la pose pas parce que finalement on est souvent lié avec un lien qui est assez conséquent, surtout quand on fait un métier avec un haut degré de qualification. Du coup, il y a un retour sur investissement qui est important, donc il faut en permanence se remobiliser, et donc une des clés du succès qu'on retrouve souvent, c'est à quel moment on fait ce pas de côté entre guillemets égoïste dans son quotidien pour retrouver du plaisir et refaire appel à ces petits moments-là quand c'est un peu plus dur et quand on en a du mal à se lever le matin pour aller à l'entraînement ou faire telle
dans
ou telle séquence.
Dans vos activités respectives, la perte du plaisir, c'est quelque chose qui est arrivé, qui arrive, et il faut trouver le moyen de... Oui ? Oui,
je trouve que c'est super intéressant ce qu'il dit. On avait déjà parlé avec des athlètes. Il y en avait même... Guillaume Gilles avait parlé de l'apprentissage à gagner souvent. Je trouvais que c'était super intéressant comme thème. C'est ce qu'il dit, c'est un gamin de 24 ans qui est champion du monde. Comment il arrive à se remobiliser le lundi d'après pour se dire il faut que j'aille regagner. Est-ce que j'ai vraiment envie de regagner? Est-ce que finalement mentalement il est capable de se remettre en état de gagner une seconde fois? Je trouve ça super intéressant pour un artiste qui remplit des salles tous les soirs. Finalement, est-ce que la salle de Toulouse, est-ce que c'est pas quasiment la même que celle de Lyon, de Bordeaux? Et quand ce sentiment, je pense, approche, il faut vraiment se poser la question.
Là, il faut trouver.
Il faut se dire attends. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Les salles se ressemblent. Mais il y a énormément d'artistes. Combien on voit d'artistes qui sont en burn-out et qui
remettent du plaisir, remettent du sens aussi en fait.
Parce que l'un va avec l'autre.
Ah, bien sûr.
S'il n'y a plus de plaisir, peut-être qu'on a une perte de sens.
En fait, c'est délicat comme sujet parce que je pense que dans tous les métiers qui sont à connotation un peu l'imaginaire collectif, il est vedette de scène,
métier passion.
Pilote de chasse, métier passion, ça doit être super tous les jours, donc on s'imagine.
Les métiers qui vont rêver les enfants.
Oui, en plus.
Les métiers qui vont rêver les enfants.
J'ai tendance à dire aux jeunes qui rentrent dans l'armée, si le monde devait se réaliser sur mon rêve des garçons, le monde serait un vaste terrain de football entouré par les pompiers, surveillé par les avions de chasse. Bon, heureusement, les gens gagnent en maturité. Après, j'ai oublié les artistes là-dedans, mais bon, globalement.
En maturité, ou alors après, ils rencontrent d'autres aventures.
D'autres choses. Voilà, en fait, ce qui est important, c'est que dans sa quête de réalisation de soi, avec avec quelles compétences on peut façonner sa personnalité et arriver à franchir les étapes dans la vie qui nous permettent de s'épanouir et de rester performant dans la voie qu'on a choisie. Mais c'est un sujet qui est vachement délicat parce que souvent on renvoie cette image-là de il a tout réussi, elle a tout réussi. Donc de quoi, on n'aurait pas le droit de se plaindre entre guillemets de cette routine qui ne peut pas être perçue de l'extérieur comme étant une routine. C'est pas possible.
Bien sûr.
Faire un truc d'exception. Ben pourtant, elle existe. Elle existe bel et bien. Alors, moi, quand je vous revois de l'extérieur en montage ou en catapultage de nuit, par exemple, c'était l'exemple que tu citais tout à l'heure,
oui.
J'ai toujours les mêmes yeux d'enfant. Hein. Mais quand c'est moi qui le fais, ben, le stress, la scène, enfin, comme pour toi, ça, c'est quelque chose qui ne me quitte pas, en fait.
Alors qu'il y en a eu un certain nombre.
Et alors qu'il y en a eu un certain nombre.
Combien d'expériences ? Combien ?
Parce que j'en ai 124 de nuit. Au total, j'en ai 400, un peu plus de 450. Voilà.
Et heureusement, quelque part, j'ai envie de dire.
Et heureusement, parce que c'est ce qui permet de se remobiliser, fait. Mais pour autant.
Donc ça ne devient jamais une routine.
Non, c'est jamais une routine. Et puis, mais il y a aussi cette overdose, parce qu'en fait, on est sollicité de plus en plus. Donc, comme on fait des métiers exigeants, on ne le fait pas en part-time. Ce n'est pas possible. On le fait à fond, tout le temps. Parfois, des fois, d'ailleurs, au détriment de la famille, souvent d'ailleurs. Ouais. Et donc, ça veut dire que cet investissement-là, il finit par peser. Et donc c'est là où c'est. Quand il s'agit de communiquer à l'extérieur sur cette notion de plaisir, qui paraît évidente au prime abord, en fait, derrière, on se rend compte que c'est des mécanismes humain assez simple et que tout le monde rencontre chez soi, et on peut faire le parallèle avec la vie du quotidien de n'importe quel
Ah, vous écoutez tous les deux, je trouve encore un point commun entre l'univers du sport et du sport de haut niveau, le monde de l'armée tel que vous le pratiquez et le monde des artistes, qui est l'hygiène de vie, parce que je vous vois tous les deux, vous êtes fit, en forme, sportif. On a parlé de padel, on a parlé de sport d'escalade aussi, on a parlé de tennis, on a parlé de rugby. La natation à haut niveau, j'ai cru comprendre.
Alors, vous savez, j'ai nagé avec Alain dans une compétition, c'est là où on s'est rencontrés.
Ah, quand même.
Ouais. Je nageais pour Salon à l'époque où j'étais dans l'armée de l'air, et lui, ouais, nageait pour Marseille, mais je n'avais pas du tout le même niveau. Donc lui, il a dû me mettre sur un 100 mètres, il a dû me mettre 20 mètres d'avance. Hein.
Ce qui est normal.
Ce qui est normal.
Ce qui est normal.
Je pratique toujours la natation en club, hein, donc je fais mes 3 séances par semaine. Voilà,
et le sport au quotidien, dans vos activités respectives, c'est un pilier important, ouais, pour vous permettre de faire ce que, ouais, vous faites, chanter, créer, écrire, des missions compliquées, oui, c'est important.
Je pense que je vais laisser aussi te parler sur ce sujet-là.
Mais, je vois votre avis à tous les deux, de toute façon. Hein.
Je pense que c'est un exutoire, en fait, d'abord.
Complètement.
Ah oui,
Complètement. Alors, une nécessité, évidemment, parce que tu l'as dit, il faut être performant sur scène.
Ouais.
Alors, même si on ne va pas se le cacher, le monde artistique souffre d'une image et d'une histoire qui va
sur les excès.
On peut pas dire que on peut pas dire
sur les excès.
Sur les excès
de certaines stars.
C'est des excès, puis le monde artistique de tout temps, il a toujours plutôt exploité la faille et les faiblesses des gens pour créer de magnifiques choses.
Ouais.
C'est différent, je pense pas que les sportifs se vantent de leurs faiblesses ou de leurs failles dans les médias, alors qu'un artiste peut se le permettre, bon, peu importe. Mais oui, en tout cas, le sport comme exutoire d'une part, pour évacuer un peu, parce que tu parles de ces sports, notamment le padel, c'est rigolo que tu en parles, parce que c'est un sport qui se développe énormément en France, voit de plus en plus de clubs.
Il y a une cote énorme.
Énorme, ouais. Il y a énormément d'artistes qui y jouent, c'est pour ça que c'est rigolo que tu en parles. Et c'est vrai que nous, le soir, on peut se retrouver sur un zénith et puis en fait, le lendemain matin, faire un paddle et puis on oublie un peu ce qui s'est passé aussi la veille, donc une forme d'exutoire. Et puis évidemment, se sentir bien dans son corps, je pense que c'est un petit peu la base quand on doit chanter devant des milliers de personnes tous les soirs, ne serait-ce que pour les respecter un peu.
C'est drôle ce que tu disais, parce que tu parlais des failles chez les artistes et qui arrivent à en faire de très très belles choses. Alain Bernard, tout à l'heure, je disais, mais parfois on aimerait être dans la tête des sportifs de haut niveau, je lui disais, notamment dans les grandes compétitions, pour voir comment cette horloge fascinante se met en place. Et Alain me disait, je crois qu'il vaut mieux pas être trop dans la tête des sportifs de haut niveau, parce que c'est quand même très compliqué parfois. Donc, les failles, elles sont... qui peuvent devenir des moteurs d'ailleurs, elles sont peut-être aussi dans cet univers-là.
Alors elles y sont, c'est sûr, je disais juste que dans l'artistique, il y a moins de tabous à les exprimer, voire les exploiter, puisque des magnifiques œuvres naissent des plus grandes tristesses des hommes. Alors qu'en sport, bon, je ne suis pas sûr qu'Alain se soit longtemps plein de son parcours perso, en tout cas pas en médias et encore moins en carrière. Je voulais dire qu'il y avait moins de tabous dans le milieu artistique.
Je pense que dans l'armée d'ailleurs, c'est pareil, les états d'âme ont...
On n'est pas les plus grands émotifs. En tout cas, on n'est pas connus pour
ça. En tout cas, vous ne le montrez pas.
Effectivement, on glisse sur un autre sujet qui est la maîtrise des émotions. Ouais. On est aussi, que ce soit dans le sport, dans le monde de artistique et les mondes de passion de façon générale, c'est forcément générateur d'émotions. Donc il y a forcément un moment où il faut les maîtriser. Et ça, c'est un sujet vaste.
Moi, je rappelle l'atelier auquel Yvan, vous allez participer demain. Donc, c'est à quelle heure d'ailleurs?
Je serai tutoyé.
Oui, pardon. Demain, c'est.
C'est 19h.
Donc, ça veut dire que ce soir, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes tranquille. Explorer ses limites.
Oui. Voilà.
Avec l'ultra trailer François Den et l'apnéiste Alice Modolo. Oui. Alice Modolo qui sera demain matin, pour le coup à 9h, entre 9h et midi, demain ici. Je vais vous donner le programme d'ailleurs, parce que je ne vous ai pas dit du tout demain qu'il y aura. Il y aura Alice Modolo, donc ce chirurgien dentiste qui est devenu apnéiste, qui a un parcours de vie extrêmement intéressant et qui justement invite les sportifs de haut niveau à justement commencer à se poser la question, à réfléchir sur la respiration. Et elle sera avec Florian Patella. Qui est kiné, qui est ostéo également, notamment de l'équipe de France de handball. Voilà. Donc on va parce que demain on va être plus sur le soin, la santé et comment le sport de haut niveau et le sport peuvent aussi être leçon de vie en termes de santé et d'hygiène de vie. Et puis deux autres invités, Hélène de France, médaillée olympique en voile, diététicienne. Voilà, on va parler de nutrition. Et Olivier Morelli, qui est préparateur physique de handball et qui l'a été sur le volleyball. Donc le programme de demain, 19h, ok, à la table ronde. Programme ce soir, demain, il y a quelque chose de prévu ou c'est relâche?
Alors ce soir, on va assister à un joli concert déjà, j'espère.
Alors il y avait un mystère parce qu'on... On ne sait pas. Vous savez qui se produit ce soir?
Je crois que c'est Petit K.
D'accord, ok.
L'artiste français Petit K.
Ok, très bien.
Il me semble que c'est ça.
D'accord, ok. Donc là, c'est à partir de quelle heure?
Je sais pas, dans un quart d'heure.
Ouais, je crois qu'on va l'entendre d'ailleurs.
Tu vois, ça va te gêner un peu peut-être.
Bon, on a des micros qui devraient régler le problème. Là. L'ingé son, Joe, il est un peu dubitatif. On n'est pas très loin de la scène.
Il sait que ça va être compliqué.
Et demain, des participations à des tables rondes où il y a des choses
Oui, il y a toujours. Je crois que ce soir, il y avait d'ailleurs, on était 7-8 à participer à ce genre de table ronde. On se met à la disposition des athlètes et puis on peut échanger. D'ailleurs, on peut échanger aussi entre intervenants. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant d'ailleurs, parce qu'on dit les athlètes, mais moi, j'étais content de discuter avec Yvan. J'apprends des choses en discutant avec tout le monde. Et je pense que c'est ça aussi, d'ailleurs, une des beautés. Des étoiles du sport, c'est de pouvoir comme ça approcher des gens qui ont des parcours inspirants facilement.
Merci à tous les deux, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup.
Merci.
Bonne soirée. Bonne fin d'étoiles du sport. Merci beaucoup à tous les deux. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser.
On va se recroiser.
Et bonne soirée.
Oui, merci
à tous les deux. Amusez-vous bien. C'est vrai que normalement, il y a un concert. Nos invités ont raison qui doit débuter d'ici 10-15 minutes. Voilà. Je pense qu'on entendra. Ça va? Bon, comment ça va vous dans le chat? Moi, je vais prendre un petit peu des nouvelles du chat. Non, c'est pas Sam qui chante ce soir. On m'a interdit. Il y a une décision de justice qui m'interdit. Tu rajoutes un micro parce que on est... Ah, il y a une surprise. Je suis beau grand. Ok, on me dit qu'il y a une surprise, formidable. Donnez-moi de vos nouvelles un petit peu dans le chat. On va accueillir deux. Alors, j'allais dire deux nouveaux invités. On me dit trois nouveaux invités. Comment ça va? Vous passez une bonne soirée ou pas? Ces échanges sur le sport, c'est quand même vachement intéressant. Hein, ouais. Ça vous inspire un petit peu? Comment ça, c'est dommage que je ne chante pas. Les intervenants sont tous super, me dit Dalek. Moi, j'avoue que je me régale. C'est incroyable, ces histoires. Voilà. Ça va très bien, super intéressant, me dit Casual. Pardon, vous savez, quand je reçois les invités, je ne suis pas tellement sur le chat. C'est le principe des surprises de ne pas être au courant. Ouais. Et bah justement, à propos de surprise, Dom38, j'allais annoncer deux invités, mais on me dit qu'il y en a un troisième. À vous. Alors... Alors, il y a une surprise. Parce que j'attendais Antoine Rosner et Philippe Dajou, et j'ai un troisième invité. Et je ne sais pas qui c'est, parce qu'on ne m'a pas dit. Alors, mais j'aime bien. Alors, et la surprise, c'est vous.
Ouais, c'est moi.
Bienvenue.
C'est moi. Bah, merci.
Je prends des notes. Alors, je rajoute un troisième nom à cette table ronde.
Ouais, bah, je m'appelle Alasdair McKenzie.
Attends, il faut aller doucement. Bah, redis-moi.
Ok, Alasdair McKenzie.
Ouais. Comment ça s'écrit A?
A-L-A-S-D-A-I-R.
C'est un joli prénom?
Ouais, écossais.
S-D-A-I-R. D'accord. Ok.
Mackenzie.
Ok. Et plus loin, Kenzie.
Ouais, voilà. Tout parfait.
Ok.
Voilà.
Sportif, évidemment.
Sportif et alpiniste. Voilà. Je fais des 8000.
Ok.
J'ai gravi 18 000 cette année, dont l'Everest. Et voilà. Ça,
Alors ça, c'est drôle parce que là, ça va rentrer en écho avec quelque chose qui, dans l'univers de Twitch et des nouveaux écrans, va parler à plein de gens. Parce qu'il y a un célèbre YouTuber,
ouais,
dont tu as entendu parler sans doute, qui est en train de préparer l'ascension de l'Everest, qui n'est pas un sportif de haut niveau, mais qui s'est fixé cet objectif, voilà, qui s'appelle Inox,
ouais.
Inox Tag, et qui est dans une préparation, longue préparation, qui passe d'ailleurs par l'ascension d'autres sommets. Je crois qu'il a fait le Mont Blanc.
Ouais, il a fait le Mont Blanc et la Madablan.
Ok, c'est une aventure que tu suis ou pas?
Ouais,
d'accord.
Ouais, ouais.
Tu l'as peut-être déjà rencontré?
Non, jamais rencontré. Mais c'est un beau objectif qui s'est fixé et j'espère qu'il va réussir.
Alors c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de viewers dans l'univers de Twitch qui émettent des inquiétudes. Parce que c'est quand même un défi incroyable de monter l'Everest en se demandant si Inox ne fixe pas un objectif qui est potentiellement dangereux pour lui. Toi, pour le coup, c'est un regard professionnel que tu portes là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que Inox, il y a encore quelques mois, n'était pas un alpiniste, on est bien d'accord.
Ouais.
Et dans quelques mois, il va grimper l'Everest.
Ouais, alors maintenant, c'est devenu un alpiniste parce qu'il a quand même fait une grosse préparation et il le montre. À travers le GR20, l'ascension du Mont Blanc, l'ascension du Cervin. Et moi, j'espère sincèrement qu'il va réussir et qu'il va montrer aux jeunes que si on travaille, on peut réussir de tels objectifs. Sincèrement, c'est top, moi, je trouve.
L'alpinisme ne fait pas discipline olympique?
Non, c'est...
En revanche, ça grimpe maintenant au jeu.
Ouais, ça grimpe, ouais, ça fait la difficulté, la vitesse et le bloc.
Ouais.
Ouais, c'est une nouvelle discipline des jeux.
Ça, c'est
d'avant. C'était les jeux d'avant, je crois.
Que tu pratiques ou pas du tout?
Moi, je pratique l'escalade, bien sûr.
Ouais.
Ouais, je pratique beaucoup d'escalade parce que dans l'alpinisme, on fait beaucoup d'ascensions où il y a des rochers, où il y a beaucoup de choses. Du coup, il faut pouvoir avoir des compétences pour faire ces sommets-là. Et ouais, ça passe par là aussi.
Bon, le journaliste que je suis, très curieux, est satisfait parce que j'ai eu une surprise. Donc, je voulais savoir qui était mon troisième invité mystère. Là, je suis très, très heureux. Messieurs, merci à tous les deux d'être avec nous. Comment ça va ce soir?
Super.
Bien. Moi, je suis totalement décalé parce qu'il y a une ambiance de fête ici. Il y a quelque chose d'assez festif. Et du coup, j'étais persuadé qu'on était vendredi soir. C'est-à-dire qu'à un moment... comme tomber dans une espèce de faille temporelle, et comme les gens sont heureux d'être là, il y a une petite ambiance de fête, puisque manifestement aux étoiles du sport il y a un peu de fête le soir aussi.
Ouais.
Il y a un concert qui se prépare, et donc à un moment je me suis senti en début de week-end. Vous me confirmez qu'on est bien lundi?
Ce n'est que lundi. Oui,
on est bien lundi. Alors à l'instant, à vos places, il y avait un pilote, il y avait un artiste, et je leur ai dit, mais alors c'est intéressant, pourquoi votre présence aux étoiles du sport? Quels sont les liens entre le monde militaire, le monde artistique et le sport de haut niveau? Donc pour Antoine Rosner, là on revient au sport de niveau, parce que vous êtes un golfeur, ouais, grand golfeur, un des meilleurs golfeurs européens. Oui, j'ai un peu de palmarès ici, corrigez-moi si je dis une bêtise, vainqueur notamment du Golf in Dubai Championship, du Qatar Masters.
Oui, c'est exact.
C'est ça. Prochaine compétition importante?
Je repars dimanche en Afrique du Sud.
Là, c'est dans pas longtemps ça, d'accord, okay.
Ouais, donc c'est bientôt, ouais, okay. Ça reprend très rapidement. La saison 2023 s'est finie la semaine dernière, et la saison 2024 reprend en fait dès cette semaine, je joue pas le tournoi cette semaine.
C'est non-stop en fait?
C'est non-stop,
il n'y a pas de pause du tout.
On a deux semaines à Noël, et après sinon c'est quasiment non-stop toute la saison. Ouais.
C'est drôle parce qu'à l'instant, le militaire qui était avec nous, le pilote... Et l'artiste disait, un des points communs qu'il y a entre la vie d'artiste, et nous avons un artiste ici, puisque nous avons un cinéaste, un réalisateur, et la vie du sportif de haut niveau, c'est le fait que, par exemple, on est parfois souvent éloigné de sa famille, et pendant de très longues périodes. Le golfeur que vous êtes, ça doit être
le cas. On voyage beaucoup, je dirais qu'en moyenne, je suis chez moi une à deux semaines par mois. Donc c'est okay. Quand même deux à trois tournois par mois, sachant qu'au golf, un tournoi, c'est du jeudi au dimanche. Et que nous, on est obligé d'arriver sur place plutôt le lundi ou le mardi. Donc voilà, ça prend vraiment toute la semaine.
Donc, jeudi au dimanche, quelle que soit sa performance, ou si on a la malchance de se faire éliminer, le vendredi, on rentre.
Le vendredi soir, on a ce qui s'appelle le cut. On garde que 60 joueurs. Et les autres rentrent chez eux. Ceux qui ont passé le cut continuent le tournoi. Et voilà, mais... Voilà, si on loupe le cut et qu'on est en Afrique du Sud, par exemple, on ne rentre pas forcément à la maison suite, pour
le week-end. Et je crois savoir que des passages de cut, ces derniers ans, il y en a eu de plus en plus pour vous. Félicitations.
C'était exact. Merci.
Philippe Dajou, ouais. Réalisateur, cinéaste, je ne dis pas de bêtises.
Oui.
Je ne dis pas de bêtises. la question que dans le chat on va tout de suite poser, c'est pour, qu'est-ce que fait un réalisateur, un cinéaste, un artiste aux étoiles du sport?
Bah d'abord, je suis passionné de sport. Ouais. J'ai commencé par le sport. Mon premier film était un film sur le sport, Les Collègues.
Oui, dans le, qui rendait hommage et mettait en lumière le sport, le football amateur.
Exactement, ouais, ouais. Pendant la première Coupe du Monde en France, ouais. En 98. Et voilà, et puis j'ai toujours été passionné de sport, et j'ai toujours été fidèle aux étoiles, et surtout, avec Lacoste, c'était une longue histoire d'amitié, et voilà, et j'ai la chance de pouvoir venir souvent à des événements comme les étoiles avec.
Pratiquant, ce sport,
Ouais. Un peu comme vous, je cours,
ouais.
Je cours beaucoup.
Running.
J'ai fait Marseille Cassis comme vous.
La dernière édition?
Non, j'ai fait l'avant-dernière, okay. Et là, je prépare le marathon olympique.
On s'y retrouve. Marathon olympique, donc c'est le marathon pour tous, hein. Ouais. C'est quand même la première fois dans l'histoire olympique qu'un marathon est ouvert au grand public, donc le marathon pour tous, il porte bien son nom. Et j'en ai pas encore trop parlé, mais c'est un marathon que je vais streamer, c'est-à-dire que je vais le courir en direct et partager ce marathon.
Magnifique.
Avec les viewers, avec Joe qui est avec là, mon producteur et réalisateur, on est en train d'imaginer le dispositif technique le plus léger possible,
ouais.
Pour ne pas gêner les autres coureurs, bien sûr.
Je vais le faire aussi. Je vais le dire parce que je vais courir pour une association d'enfants hospitalisés. Et je vais leur montrer, comme à l'époque, moi j'avais eu un cancer des os quand j'avais 16 ans. Et 40 ans après, je vais faire mon deuxième marathon. Et je vais courir pour un message d'espoir pour les enfants. Pour leur dire que
dans
40 ans, tu vas en sortir et tu feras un marathon olympique.
Et on va citer l'association, on va leur faire la publicité. Comment
c'est les enfants de la Timone.
Les enfants de la Timone.
Et l'association de Pascal Olmeta aussi.
Ah. Ah, bravo.
Ouais.
Revenons au sport. Les JO approchent, c'est dans 8 mois. Une des raisons qui a motivé un peu cette organisation de cette table ronde ce soir entre tous ces sportifs et amoureux du sport, c'est s'il y avait un seul conseil à donner aux sélectionnés ou ceux qui espèrent être sélectionnés, ceux qui vont défendre leurs couleurs et les couleurs de la France dans 8 mois, ce conseil, ce serait lequel? Je pose la question aux golfeurs pour commencer.
Je pense que tous les athlètes qui seront présents seront prêts. Ils auront fait un travail énorme pour arriver à ces Jeux. Je pense qu'il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut prendre du plaisir. Tout le dur travail a été fait et il n'y a plus qu'à, en fait. Il faut y aller à fond et sans regret et tout donner. Voilà, tout simplement.
Des Jeux, dans une carrière, c'est quelque chose de... D'abord, qui ne se présente parfois jamais.
Et des Jeux à la maison, encore moins.
Ouais. Bah, ça fait un siècle.
Oui, voilà. Donc, c'est une fois dans sa vie.
Ouais.
Ça va être un événement à part, c'est sûr. Des Jeux, c'est déjà particulier, mais à la maison, ça va être encore plus. Donc, je pense qu'il faut... Ça va être très dur, mais essayer, dans un sens, de prendre ça comme un événement comme un autre, se fait pour avoir un petit peu moins, peut-être, de pression.
C'est compliqué.
C'est compliqué. Il y aura toute la famille, tous les entraîneurs. Tout le monde sera là. Avec beaucoup d'attente pour nous, mais il va falloir essayer de faire abstraction de tout ça et être performant malgré ces attentes.
Ouais. Comment on fait pour chasser cette pression parce qu'on dit souvent, disputer les Jeux à domicile, c'est un avantage. C'est vrai que d'ailleurs, statistiquement, quand on regarde le nombre de médailles des sélections des pays organisateurs, c'est vrai que globalement, c'est toujours un peu meilleur. Mais c'est aussi une pression parce qu'on joue à domicile, devant son public, devant sa famille, devant ses amis. On est un peu attendu au tournant. Quels sont les outils pour éventuellement chasser cette pression? Pas facile, hein?
Non, c'est pas évident, mais je pense que ces sportifs se préparent depuis tellement longtemps. Je pense qu'ils seront beaucoup plus préparés que peut-être pour d'autres Olympiades.
Ouais.
Ils seront plus habitués avec, pour le golf, le terrain. On le connaît par cœur. Peut-être qu'en athlétisme, les sportifs peuvent aller au Stade de France plus régulièrement. Je pense qu'on aura l'avantage du terrain, ça joue. Et puis après, il va falloir arriver à être prêt, à se dédouaner de cette pression et y aller à fond.
Alasdair, quel regard tu portes, toi, sur les Jeux Olympiques?
Ah bah, moi, j'adore. Hein. Je suis fan des Jeux Olympiques depuis tout petit. Et sincèrement, de les voir à chaque fois, c'est toujours un plaisir. Mais ouais, pour moi, le plus important, c'est qu'ils prennent du plaisir. Parce que ça fait 100 ans, comme vous disiez, que ça ne s'est pas disputé à la maison. Et il faut qu'ils y croivent et qu'ils y aillent et qu'ils prennent du plaisir.
Du plaisir, tu en as, toi, à suivre les Jeux, des sports en particulier ou pas?
J'aime bien regarder un peu de tout. J'aime bien le judo, quand même.
Ouais. On a espoirs de médailles.
Ouais.
On parlait de Clarisse Agbenienou tout à l'heure qui est déjà qualifiée.
Ouais. Et après, moi, j'aime bien regarder à peu près tous les sports parce que On tombe sur à peu près tout, sur les chaînes, du coup c'est génial à voir, et d'essayer de comprendre le sport, c'est encore mieux. Voilà.
C'est un moment attendu, c'est un moment attendu qu'est amateur de sport.
C'est formidable. Ouais. Mais le conseil à tous les jeunes qui vont participer, tous nos athlètes français, c'est que, pour le parallèle avec les films, c'est que tout est possible. Quoi. C'est possible, et ils ont tout à faire, et je suis très confiant pour ces jeux.
Il y a des places peut-être qui ont été réservées pour assister à certaines épreuves.
Pas pour l'instant.
Il y a déjà une place qui est celle du marathon pour tous.
Ah oui, déjà. On sera au milieu là.
Objectif ? Objectif de temps ou c'est juste un moment de partage, de plaisir ?
Non, objectif c'est peut-être moins de 5 heures, mais j'avais fait 3h35, mais là moins de 5 heures, je veux le terminer pour les enfants, je ne veux pas me laisser. Objectif de le finir,
de
participer.
Ouais. Marathon nocturne, hein, le départ sera donné en soirée, je crois.
Paris-Versailles, pareil.
Ouais, 22h.
21h, je crois.
Alors, il y a des rumeurs avec du dénivelé, avec des petites côtes.
Il paraît.
On est d'accord que sur un marathon, c'est dur. Le 42 km, c'est quelque chose.
Du piment.
Mais sur un.
C'est... À Marseille-Cassis, on avait un peu de dénivelé aussi.
Oui, mais après, c'est ce qui fait le sel de cette course. Ouais. Ça monte pendant 10 km, ça descend.
10 km.
Ça descend pendant 10. Dans vos pratiques sportives respectives, à haut niveau ou amateur, un souvenir plus fort qu'un autre. On a évoqué les deux beaux titres que vous avez remportés récemment. Quel est votre plus beau souvenir sportif?
Je pense que les victoires, on s'en souvient forcément, ça a une saveur particulière. La première, on s'en souviendra vraiment, je m'en souviendrai pour toujours. Maintenant, les Jeux, c'était particulier à Tokyo. Même si on était en plein Covid, il y avait beaucoup de règles sanitaires à respecter. La cérémonie d'ouverture, c'était un très très beau moment. Je m'en souviendrai longtemps, donc j'étais pas sur le terrain, mais voilà, ça, c'est un moment qui m'a donné la chair de poule, et j'espère revivre ça dans plusieurs Olympiades.
Un souvenir de sportif.
Alors moi c'est l'Everest. Moi c'est
c'était
l'Everest.
Quand c'était quand
le 16 mai 2023 là cette année.
Ouais.
Où on montait toute la nuit et il y a eu le lever du soleil. Et en fait, on était au sommet sud et j'ai pu voir la courbure de la Terre. Et ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais.
L'ascension de l'Everest, c'est combien de temps ?
Alors, on part en expédition à peu près pour 2 mois.
Oui.
2 mois, et après, on va arriver au camp de base. Après...
Parce qu'il y a des paliers.
Il y a des paliers à respecter. Ouais. Du coup, le camp de base, c'est le premier palier. C'est là où on va rester à peu près le plus longtemps sur zone. Et après, durant notre acclimatation, on va faire des paliers... camp 1, camp 2, camp 3, on va toucher le camp 3 et on va redescendre se reposer, et selon la personne, peut-être on va devoir faire une deuxième acclimatation et on pourra aller au sommet. Mais c'est très long comme expédition parce que y a beaucoup de facteurs, il y a la météo, il y a le physique, il faut voir si tout est prêt et tout est en ordre sur tous les aspects. Mais une fois qu'on est là-haut, ça vaut les 2 mois d'attente, sincèrement.
On sent que c'était un moment important. Un souvenir de sport, peut-être de coureur, du coup, de marathonien.
Mon premier marathon.
Ouais. C'est toujours le plus fort. C'était lequel ? Paris, peut-être ?
Non, c'était le marathon de Marseille.
C'était Marseille.
Marseille, à l'époque. Où j'avais fait 3h35. Mais en fait, c'est tout.
3h35 pour un premier marathon, c'est pas mal.
Ouais,
pour un premier, c'est beau.
C'est tout. On garde en souvenir, effectivement, toutes nos premières fois et tous nos premiers exploits et tous les prix. Quand on reçoit un prix, quel qu'il soit en sport ou même. Là, j'ai reçu un prix dernièrement dans la dernière réalisation. On est toujours très honoré. Et ça marque notre carrière et nos motivations à venir.
Vous êtes tous sportifs, sportifs de haut niveau, sportifs amateurs. Vous aimez les valeurs du sport. Parfois, on dit que la France n'est pas un pays sportif dans sa pratique quotidienne. C'est-à-dire que les Français et les Françaises, c'est notamment ce que disent les scientifiques et les médecins, ne font pas assez de sport pour être en forme, pour éloigner justement certaines maladies. Puisqu'aujourd'hui, on a des études scientifiques extrêmement claires, extrêmement poussées, qui montrent comment le sport... sans forcément en faire à haute dose, mais en fait est un repoussoir de maladie, ça éloigne la maladie et presque un médicament, en tout cas préventif. Quel est votre regard là-dessus ? Est-ce que vous trouvez que la France n'est pas un peuple de sportifs ?
J'ai la de vivre à Marseille où je vois beaucoup de gens courir et faire du sport ou nager, etc. Mais...
Plus qu'avant.
Ouais, j'ai l'impression plus qu'on fait plus de sport qu'avant et que justement on en parle comme vous le faites maintenant et qu'on a un désir plus important de faire du sport.
Pendant qu'on parle, je vais lancer un sondage dans le chat. Parce qu'il y a des outils intéressants sur Twitch. Et en fait, on peut poser une question à ceux qui nous regardent et on va leur demander, est-ce que vous pensez que pensez-vous que les Français sont sportifs dans leur pratique quotidienne, hein, parce que des grands champions sportifs, on en a. Pensez-vous, on va leur demander. La question que je suis en train de poser, c'est pensez-vous que les sportifs sont sportifs? Ça ne marche pas. Pensez-vous que les Français sont sportifs? Voilà. Alors oui. Alors, on va mettre beaucoup. On va mettre un peu. On va mettre non. Voilà. Entre gens, on peut mieux faire, quoi. Voilà, ça se rappelle l'école, ça. Et je ne sais pas, puisque dans un sondage, dans une enquête, on a le droit de ne pas savoir. Okay.
Avec les jeux, à mon avis, ça va motiver les gens à faire un peu plus de sport. Ils vont s'identifier justement à tous les sportifs.
Ça, ce serait bien. C'est un des enjeux, hein, d'ailleurs, jeux, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez, les Français sportifs, suffisamment?
J'ai vu une interview de Stéphane Diagana il n'y a pas longtemps sur un plateau de télé qui critiquait pas mal le système du sport en France.
Ouais. Qu'est-ce qui va
du
pas
du sport à l'école.
Ouais.
Et j'étais assez d'accord avec lui pour dire que je trouve que ce qu'on fait au sport à l'école, c'est pas suffisant. Je voyage partout dans le monde, je rencontre beaucoup de personnes de plein de pays différents. Et quand on parle de sport, c'est vrai que j'ai l'impression que nous, ce qu'on fait en France, c'est vraiment très minimaliste.
Il y a des sportifs, des pays dont on pourrait s'inspirer en particulier.
En Espagne, par exemple.
Ouais. Ah ouais.
En Espagne, ils finissent l'école plus tôt, il me semble vers 15h, et non. Ils ont toute l'après-midi de libre pour faire
plus
leur sport.
Ça m'aurait plus, ça.
Et quand on voit leurs résultats dans plein de sports différents, je pense au tennis, je pense au golf, ils sont très très forts. Est-ce que c'est la raison? Sûrement. Mais en tout cas, je pense qu'on peut mieux faire, c'est certain.
Parce que Philippe constatait que de plus en plus de gens courent, c'est vrai, dans toutes les villes. Il y a 20-30 ans, les gens, c'était pas du tout le cas. Il suffit de voir les masses de coureurs maintenant dans les grandes courses comme les marathons. Mais c'est vrai que à l'école.
Une heure et demie de PS par semaine, non, mais c'est pas grand chose.
Et ça n'a pas changé. C'est-à-dire que si je remonte dans ma scolarité qui remonte un petit peu à au moins 30 ou 40 ans en arrière, j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Quoi.
Je ne sais pas si ça donne beaucoup envie aux enfants de continuer à faire du sport par la suite.
On va demander aux plus jeunes de ce plateau s'il y a eu du sport à l'école.
Alors moi je peux pas vous répondre à ces questions
parce que
je fais école à la maison.
D'accord, ok.
Donc moi le sport a quand même fait partie de ma vie quotidienne. Du coup, voilà, je suis le mauvais pour ça.
Alors, j'ai le résultat du sondage, on a posé la question à ceux qui nous regardent. Regardez, je crois que le résultat est sans appel. Pensez-vous que les Français sont sportifs? Non, on peut mieux faire, 54%, donc je crois que c'est clair. Un peu, 32%. Les gens à avoir répondu oui, les Français sont très sportifs ne sont que 5%. Donc on voit bien qu'il y a un constat quand même. Et je ne sais pas, 8%.
Je vois aussi, donnais l'exemple de l'Espagne, mais les pays du Nord sont très très sportifs. L'hiver, ils vont au travail en ski de fond, par exemple. Enfin, c'est vraiment une autre culture. Ils sont très très sportifs. Ils prennent vraiment soin de leur corps. Et je pense qu'on n'a pas encore cette culture-là en France.
Le chat participe au débat. Il y a Monologie qui dit la Slovénie forme de très bons athlètes, notamment avec un repérage très tôt à l'école. Au lycée, c'est une aberration, on n'a que 2 heures. Donc manifestement, ça n'a pas beaucoup changé depuis mon époque. Et c'est bien dommage. Moi, je ne connais pas bien le système américain. Est-ce que les Américains, un, ont un rapport différent au sport? Deux, est-ce que à l'école justement le sport est plus important?
Ça me permet de répondre parce que j'ai fait la fac aux États-Unis pendant 4 ans.
Très bien.
Je suis parti là-bas avec une bourse pour le golf. J'étais dans l'équipe de golf de l'université.
Quelle université?
Kansas City, donc super, en plein Midwest, plein centre des États-Unis. Et c'est une culture qui est complètement différente. On peut aujourd'hui intégrer les plus grandes universités des États-Unis
grâce
au sport. Et c'est des bourses qui coûtent beaucoup, beaucoup d'argent, dans les 40 000 dollars si on veut aller même à Stanford, par exemple. C'est même beaucoup plus que ça. Et voilà, ces universités investissent beaucoup d'argent pour préparer des sportifs en espérant à l'avenir ramener des médailles olympiques. Enfin, c'est vraiment un système et une culture qui est complètement différente. On pousse les enfants à faire du sport. je crois qu'au lycée, un élève choisit son sport et va se perfectionner là-dedans pour plus tard espérer une bourse dans les universités et plus tard être athlète olympique.
Et d'ailleurs, pour, parce que ce système est un peu mystérieux pour les Français, quel est l'intérêt des universités américaines d'attirer à elles des sportifs, peut-être de grands champions, grâce à ces bourses?
Déjà, ça rapporte beaucoup d'argent pour certains sports, parce que le football américain et pour le basket, c'est deux sports qui sont quasiment comme des pros. Ils ont des stades de 80 000 places.
Ouais.
Ça rapporte beaucoup d'argent. Il y a vraiment un vrai business lié au football américain et au basket. Et puis après, ça leur fait une espèce de publicité de dire
en
voilà.
En termes d'image.
En termes d'image, on a la meilleure équipe de basket des États-Unis. Ça attire des étudiants. J'ai un exemple en tête, puisque c'était dans le Kansas, c'est l'université de Wichita State. Ils ont eu une année où ils ont eu une équipe de basket exceptionnelle qui est arrivée dans les 4 meilleurs des États-Unis, et leur demande d'inscription à l'université a augmenté de 100% l'année d'après. Donc il y a un vrai business model derrière ça, et je crois que c'est un système complètement différent.
Je réponds à une question dans le chat, parce que Twitch, c'est aussi un débat où c'est un endroit où on échange, où on débat, où ceux qui nous regardent, même si quand j'ai des invités, je lis un peu moins le chat parce que je suis plus vers vous. Il y a Julie qui pose une question intéressante. Pourquoi ça serait spécifiquement à l'école de nous faire faire du sport, puisque moi je fais ce constat que je crois que le sport n'est pas assez développé à l'école et qu'on est très en retard là-dessus par rapport notamment à d'autres pays et parfois même des voisins comme l'Espagne. Et Julie qui dit les parents doivent pousser leur enfant à s'inscrire dans un club, je pense, hors scolaire. Moi, je me permets de répondre que l'école en France, elle est normalement accessible à tous, voilà, et elle est gratuite. Je parle de l'école publique. Le club de sport, c'est parfois une dépense. C'est parfois une dépense importante pour des ménages qui ne peuvent pas toujours se le permettre, et encore plus quand il y a plusieurs enfants. Si dans le cadre de l'école gratuite, il y a une pratique sportive régulière, quotidienne, comme en Espagne, à partir de 15h l'après-midi, on est dans un cadre vertueux où la pratique sportive, je me permets de répondre à Julie, eh bien, ne s'inscrit pas dans une limite qui peut être financière, par exemple. Donc, après, on peut débattre de ça. Une dernière question et je vous libère. Est-ce qu'il y a des gamers parmi nous? Parce que le sport, c'est aussi l'e-sport. Sur Twitch, on est sur une plateforme. Il y a le concert qui est en train de commencer. On finit au moment parfait. Il y a beaucoup de passionnés de gaming sur Twitch. Est-ce qu'il y a des gamers, des pratiquants de jeux vidéo ici? J'ai l'impression que oui.
Je m'y suis beaucoup mis pendant le Covid. J'ai commencé sur Fortnite et je suis beaucoup sur Warzone maintenant. Voilà.
Donc, un joueur de Fortnite, de Warzone, un peu
moi,
de jeu
de temps en temps.
Un peu de jeu.
Moi, j'ai un casque virtuel.
Ok, un peu de VR.
Voilà.
Ok, ok.
Moi, je peux pas. Je suis en expédition, il n'y a pas d'internet. Hein.
Mais tu n'es pas en expédition tout le temps, si, non?
La plupart du temps, c'est si. Là, j'ai passé 180 jours au Népal, plus de 50 jours au Pakistan. Là, je viens de rentrer. Du coup, je ne me suis pas remis.
Mais donc ça, c'est des séquences de temps très très longues. On parlait de séparation de la famille tout à l'heure, mais ce n'est pas que de la famille. C'est-à-dire de tout ce qui peut être tes loisirs, tes passions, éventuellement tes envies, ta vie sociale, ta vie amicale. Tu as quel âge, pardon?
19 ans.
Okay. Comment tu vis ça d'être, entre guillemets, privé de certains aspects de la vie d'un jeune homme de 19 ans?
Moi, sincèrement, si c'était à refaire, déjà, je referais.
Okay.
Parce que j'ai vécu des choses que je pense pas que j'aurais pu vivre en restant chez moi. J'ai pu rencontrer de nouvelles personnes, j'ai pu rencontrer et de voir de nouvelles perspectives aussi qui sont énormes, et d'être vraiment dans cet esprit de quand on fait un sommet. Moi, je suis jamais seul, je suis avec un binôme. Par exemple, sur l'Everest, il avait 22 ans, du coup, on devient une famille.
Ouais.
Toute mon équipe et moi, on s'entend super bien, du coup, on sent pas vraiment cette distance.
Ça veut être humainement très très fort.
Humainement, c'est magique. Parce qu'on fait des sommets ensemble, on célèbre ensemble et on fait tout ensemble. Et moi, j'adore ce sentiment, du coup. Mais pour ce sentiment, il faut faire des sacrifices. Et les jeux vidéo ont fait partie pendant ces 6 derniers mois.
Peut-être que dans l'avenir, il y aura un peu de temps pour d'autres choses.
Peut-être, on verra.
C'est amusant parce qu'il est 22h02. On s'était dit que ce stream se terminerait à peu près à 22h. On entend le concert qui est en train de se préparer. Voilà. C'est bien. Du coup, ça va soulager Joe qui avait très très peur à un moment que la musique déferle sur nous et nous oblige à crier pour...
Moi j'avais une petite question. Est-ce que tu as filmé tes expéditions? Est-ce qu'on pourra les voir en VR?
Ouais, on est en train de voir pour peut-être faire un film, réaliser un film à propos de ce projet, parce que ce projet m'a pris plus de J'ai commencé en 2022.
Tu parles de l'Everest, là.
Là, je parle de...
Du prochain.
Des 14, en fait. Là, le projet, c'était de réaliser les 14 plus hauts sommets de la planète.
Il faut le filmer.
En 18 mois. Et pour répondre à la question, ouais, on a énormément filmé. On a filmé toute la préparation, toute la logistique, tous les doutes, tout le stress qu'il y avait du projet et toutes les ascensions du sommet.
Les inspirations pour tous les jeunes, pour les motiver. Voilà.
Le dérochage de ces images, c'est quasiment un Everest. Hein, parce que...
Ah ben là, il y a beaucoup d'images. On est sur trois disques durs externes de 1 tera.
Un monteur.
Ça va être long, je pense.
Je souhaite bonne chance au monteur ou à l'équipe de monteurs plutôt, parce que là, il y a...
Mais ce serait important pour les jeunes, c'est bien.
Bah ouais, ouais. Bah c'est ce qu'on voulait faire, ce projet, pour montrer aux jeunes que c'est possible, parce qu'on est parti de zéro. Et on a monté un projet à des centaines de milliers d'euros et on a réussi.
Du coup, combien de temps de préparation pour une personne lambda pour le Mont Blanc, par exemple?
Pour le Mont Blanc, une vingtaine de jours. Okay. S'il veut être bien en montagne, après on peut le faire bien plus rapidement selon son niveau. Mais il faut qu'il ait déjà fait un peu de montagne, tout ça. L'Everest, on est vraiment sur un autre aspect parce que, en fait, à 8000 mètres, l'air est tellement raréfié qu'il n'y a aucune vie. Et notre corps, là-haut, on va rentrer dans ce qu'on appelle la zone de la mort, où notre corps ne va pas se reposer, va faire que se dégrader. Du coup, il faut vraiment se préparer beaucoup, être sûr de son équipe, parce que si on a un petit pépin, il faut que ça soit bon. Et ouais, c'est une grosse préparation. C'est plus de 2 ans de préparation.
C'est impressionnant. Hein. Mais en tout cas, moi, j'aurais terminé là-dessus, parce que cette question était intéressante, parce que l'image, le film éventuel de cette série d'expédition, c'est la transmission. Et là, les étoiles du sport, c'est ce que j'ai compris au travers de nos échanges avec tous les invités ce soir, c'est qu'on est dans un magnifique moment de transmission, de conseils, d'accompagnement, donc des parrains vers les athlètes juniors de demain, mais aussi des discussions interdisciplinaires. Donc ça dure depuis 21 ans, voilà, avec ce moment fort chaque année qu'on est en train de vivre ici, ce rendez-vous à Tignes, et qui pour nous va se poursuivre demain matin, parce que demain matin il y aura un deuxième stream sur cette chaîne Twitch de 9h à midi. D'ailleurs je vais aller préparer là maintenant, parce qu'il faut préparer un petit peu, avec 4 nouveaux invités. On aura donc Florian Patalagoiti et Alice Modolo, voilà, à 9h tout d'abord, et puis Hélène de France et Olivier Morelli qui seront avec nous. Donc Florian, c'est un kiné, c'est un ostéo, voilà, qui travaille notamment avec l'équipe de France de handball. Alice Modolo, donc c'est un parcours extrêmement étonnant d'un médecin, d'une chirurgien dentiste qui est devenu apnéiste à un niveau totalement incroyable. Hélène de France, médaillée olympique de voile, c'est elle qu'on sait en train de démarrer là. Diététicienne, on va parler de nutrition, on va parler de comment le sport peut aussi nous aider à mieux vivre. On a commencé à en parler ici. Demain, on sera plus sur des questionnements un peu grand public. Et Olivier Morelli, qui est préparateur physique de handball, qui a aussi travaillé sur le volleyball. Merci à tous les trois.
Merci
beaucoup. Merci de nous rejoindre. Bonne soirée, parce qu'il y a une bonne soirée qui se prépare. Là.
Je voudrais remercier vraiment Elvire et Joanne de chez Lacoste qui nous ont permis de venir ici. Bravo aux étoiles du sport.
Merci à tous.
Merci à tous.
Merci. Merci aux organisateurs, effectivement, qui font un super travail. Joe, merci. Tu as passé une bonne soirée.
Merci à vous tous.
Tout s'est bien passé pour toi. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir en direct des étoiles du sport de Tignes. Là, le concert, le timing est parfait, qui débute là. Nous, on va aller le voir. On se retrouve demain à 9h au même endroit sur cette chaîne Twitch. On va parler de sport, on va parler de santé, d'équilibre de vie. Bonne soirée, prenez soin de vous, des autres. Joe, est-ce qu'on fait un petit raid ou pas? On a le temps? Pendant le break? Tu lances un petit break de musique? Ok, on lance 2 minutes de musique et pendant ce temps, on prépare un raid et on vous envoie tous sur une autre chaîne. Bonne soirée à tous, à demain.
C'est...
Les amis, j'ai oublié de vous demander qui on devait raid ce soir et vous me l'avez dit dans le chat. Il y a une très belle chaîne, Arnaque-moi si tu peux, c'est une streameuse qui dénonce les arnaques, notamment sur internet, qui mène un joli combat contre les brouteurs, les gens qui exploitent les faiblesses de certaines. Arnaque-moi si tu peux, qui en plus vient souvent nous voir, nous fait souvent de très jolis raids. Je lance le raid, je le charge. Passez encore une belle soirée, merci d'avoir été avec nous ce soir. Soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous, faites du sport aussi. À demain matin, 9h. Maintenant, je vais aller préparer cette table ronde de demain. Le raid part dans 3, 2, 1. C'est parti. À demain, ciao.